Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La ville de Bordeaux en alerte. Le pic de la crue attendu dans l'heure. La Garonne pourrait atteindre son plus haut niveau depuis près de 30 ans. Nous serons en direct sur place. La France insoumise refuse de lâcher son député Raphaël Arnaud, deux de ses assistants parlementaires toujours en garde à vue dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenck à Lyon. Et puis c'est confirmé, Habib Bey est le nouvel entraîneur de l'OM. Retour aux sources pour l'ancien capitaine marseillais.
C'est la pire journée niveau inondation avant une accalmie peut-être demain.
Toute une partie ouest de la France toujours sous l'eau. Une personne portée disparue dans le Maine-et-Loire après avoir chaviré de son canoë. La tempête Pedro, les coefficients de marée élevés, des rafales de vent, plusieurs phénomènes se conjuguent à Bordeaux qui se prépare à une crue aujourd'hui. Pierre Bourgès, vous êtes le correspondant d'RMC dans le sud-ouest, en direct donc de Bordeaux ce matin où l'on redoute un pic de la Garonne dans l'heure qui vient.
Oui, c'est ça. Je me trouve d'ailleurs au bord du fleuve, au nord de Bordeaux. Et là, il ne manque que quelques centimètres à la Garonne pour sortir de son lit. Son pic devrait être atteint à 7h44 précisément. Et si l'on redoute effectivement ce pic, c'est que le fleuve est d'un côté fortement alimenté par les crues en aval, en sud Gironde et en Lot-et-Garonne. Et de l'autre, la marée haute crée une sorte de bouchon qui empêche l'eau de s'évacuer. On pourrait donc atteindre à Bordeaux un niveau d'eau à 7 mètres. C'est proche des crues historiques de 1999. Le plan communal de sauvegarde a été déclenché hier pour assurer la protection de la population. Une première également depuis 27 ans. Selon la mairie, deux quartiers pourraient être particulièrement touchés. Celui de la Bastide, rive droite, et de manière plus inédite, celui de Bacalan, rive gauche. Et c'est ici que je me trouve ce matin. Des centaines d'habitations pourraient être concernées. Elles ont une particularité. La plupart sont des échoppes bordelaises. Vous savez, ce sont ces petites maisons sur un seul étage. J'aurais il ne suffirait donc que quelques centimètres pour inonder ces habitations qui ont essayé de se barricader ce matin avec quelques sacs de sable posés devant la porte.
Pierre Bourgès en direct de Bordeaux pour RMC. Il reconnaît avoir commis des violences mais nie avoir porté les coups qui ont tué Quentin Derenck à Lyon. Jacques-Élie Favreau s'est exprimé hier par la voix de son avocat, toujours en garde à vue ce matin, comme 10 autres suspects. On a appris hier qu'en plus de lui, un autre assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud faisait partie des interpellés ainsi qu'un ancien stagiaire, ce qui accentue la pression sur la France insoumise. Le gouvernement demande à LFI d'exclure temporairement Raphaël Arnaud de son groupe à l'Assemblée. Mais pour l'instant, Cyprien Pézeril, service politique d'RMC, LFI, fait bloc derrière son député.
On n'est pas du genre à lâcher les nôtres, assume un intime de Jean-Luc Mélenchon. Officiellement, Raphaël Arnaud est donc toujours soutenu par l'état-major insoumis. Mais à bas bruit, certains remettent en cause cette stratégie et accusent leur mouvement d'inconséquence, avec l'idée qu'en investissant en 2024 le fondateur de la Jeune Garde, ce qui devait arriver est arrivé. La violence en politique, ça n'a pas été suffisamment anticipé, déplore un insoumis de la première heure. Quand un cadre appuie, ça va de soi que c'était une mauvaise idée de faire alliance avec eux. Ils ne nous apportent rien, on n'avait pas besoin d'eux pour combattre l'extrême droite. LFI empêtrée sur la défensive et toujours plus isolée. Le RN appelle même un cordon sanitaire face à eux et une partie de la gauche dit plus jamais d'alliance avec les insoumis. Bref, c'est un bordel sans nom, s'inquiète un député.
Cyprien Pézeril, service politique d'RMC. Les patrons du Constellation ont-ils menti? C'est ce que laisse penser un nouveau témoignage dans l'enquête sur l'incendie mortel de ce bar de Crans-Montana en Suisse. 41 morts la nuit du Nouvel An. Le témoignage d'un videur, c'est une information BFM TV. Ce qu'il a dit aux enquêteurs, Célestin Bougère, accable les gérants.
Oui, lors de son audition devant la police de Sion hier, il dit avoir surpris une conversation entre Jessica Moretti, la gérante, et Jean-Marc, un salarié et ami proche du couple de propriétaires. Un échange pendant lequel Jessica Moretti aurait ordonné de fermer toutes les portes, sauf celle de l'entrée. Le but, que tous les participants à la soirée paient bien leur place. Un témoignage qui remet en cause la défense de Jessica Moretti et de son époux. Eux ont toujours assuré jusque-là que les salariés avaient pour consigne de laisser la porte de service ouverte. Elle était pourtant fermée le soir du drame. Une porte par laquelle une serveuse et plusieurs participants à la soirée ont tenté de s'échapper en vain au moment de l'incendie. Ce videur d'un soir assure par ailleurs n'avoir reçu aucune formation en matière de sécurité.
Peut-être une solution contre les faillites d'entreprises, en finir avec les retards de paiement. C'est l'objectif d'une proposition de loi examinée au Sénat aujourd'hui, contraindre les entreprises et acheteurs publics à payer plus vite les factures. C'est de nature à rassurer les TPE et les PME, Cassandre Brault.
Dans cette entreprise qui fabrique et commercialise du chocolat, les retards de paiement font partie de la charge mentale au quotidien. Yann Guégan est responsable commercial.
Tout a un coût. Ce chocolat, ça va avoir un coût. Donc, si on n'a pas de paiement qui rentre, on va avoir un problème de trésorerie, on va pas pouvoir payer nos fournisseurs, on va pas pouvoir nous payer nos employés.
Et ça empêche même le développement de l'entreprise.
On pourrait recruter, faire de nouveaux projets, s'implanter dans de nouveaux pays, mais là on est bloqué par ces paiements qui n'arrivent jamais.
Alors cette proposition de loi est saluée par Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises. Ces services sont de plus en plus sollicités pour des retards de paiement.
Depuis 2021, 2022, 2023, ça monte, et surtout en 2024 et 2025, on voit une accélération qui est très préoccupante dans un contexte délicat pour les entreprises.
Et les plus mauvais payeurs, ce sont surtout les grandes entreprises et les grandes collectivités territoriales.
Parce qu'il y a simplement un rapport de force. Une PME, une TPE ne peut pas se permettre de ne pas payer son fournisseur, souvent plus grand que lui, alors que c'est facile, malheureusement, pour un grand acteur, de ne pas payer sa petite structure, son petit fournisseur.
En 2024, les PME auraient bénéficié de 15 milliards d'euros de trésorerie supplémentaire sans ces retards de paiement, selon la Banque de France.
1 200 000 comptes bancaires consultés par un acteur malveillant, annonce le ministère de l'économie. L'auteur aurait usurpé les identifiants d'un fonctionnaire pour consulter le RIB, l'IBAN, jusqu'à l'adresse du titulaire du compte. La Direction générale des finances assure toutefois que cela ne permet pas de faire des opérations ni de consulter le solde bancaire. Plus de détails dans le journal de 7h30.
Et pour l'heure, il est 7h07 et en football, Habib Bey arrive sur le banc marseillais. Et
c'est officiel, l'ex-entraîneur du Stade Rennais est nommé comme coach de l'OM, club qu'il connaît très bien. Il en a été le joueur et le capitaine il y a près de 20 ans. Le Sénégalais a désormais la lourde tâche de remettre de l'ordre après des semaines de polémiques et de déceptions. Il dirigera son premier entraînement aujourd'hui, Clément Brossard.
Bon retour chez toi, Habib. C'est par ces mots que l'OM a officialisé hier soir l'arrivée de son nouvel entraîneur. Via un communiqué, le club souligne son attachement profond à l'Olympique de Marseille et sa connaissance intime de l'environnement marseillais comme atout majeur. Habib Bey s'est engagé jusqu'au mois de juin 2027 avec l'OM. Il dirigera sa première séance d'entraînement ce matin avant d'être présenté à la presse. Son baptême comme entraîneur marseillais arrivera vite, dès demain à Brest. Un stage à Marbella pourrait être effectué les jours suivants pour accélérer son adaptation et sa connaissance du groupe. Et dans cette période de transition, Marseille va également changer de président. Pablo Longoria, invité par le propriétaire Franck McCourt à tenir un rôle institutionnel, n'accepte pas cette décision et ne restera pas à l'OM. Son départ définitif aura pour conséquence la non-représentation du club au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel.
Et puis la France gagne 2 places au tableau des médailles aux Jeux d'hiver. On est 4e avec 17 médailles, la dernière en or, celle des biathlètes françaises sur le relais.
C'était le journal de Clara Gaby et il est 7h08 sur RMC. Écoutez, c'était le 14 janvier dernier à l'Assemblée nationale.
Il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas de document à Bercy qui le montrerait.
Et pourtant si, voilà, Amélie de Montchalin, la ministre du Budget, qui est donc finalement contredite par ses propres services, les services de Bercy. 13 000 millionnaires ne payent pas d'impôts sur le revenu. Comment expliquer cette anomalie? Bonjour Sandra Demarque, vous êtes la représentante de Solidaires Finances Publiques. Ça vous met très en colère ce matin. Les riches ne veulent pas participer à l'effort collectif. Voilà ce que vous nous dites dans un instant. Et vous, je vous attends au 32-16 pour réagir. Il est 7h09, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story à la télé. Ce chiffre explosif, 13 000 millionnaires ont une feuille d'impôt sur le revenu à zéro, voire en négatif. Après la polémique le mois dernier, Bercy a finalement publié les chiffres et c'est 10% des foyers éligibles à l'impôt sur la fortune immobilière qui ne payent en réalité pas d'impôt sur le revenu. Un scandale démocratique pour vous, Sandra Demarque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale de Solidaires Finances Publiques, c'est le premier syndicat aux impôts. Comment on explique d'abord cette anomalie ?
Cette anomalie, elle est toute simple, c'est que c'est le système fiscal aujourd'hui qui le permet, puisque là, on parle bien d'un système d'optimisation fiscale, nous on appelle ça agressive, qui permet à un certain nombre, à une minorité, hein, mais pas des moindres, d'utiliser tous les leviers possibles, alors que la loi, le système fiscal français, pour ne payer aucun impôt sur le revenu.
Ça veut dire que c'est légal. Ils ne trichent pas.
On ne parle pas de fraudeurs fiscaux, on parle de millionnaires qui utilisent tous les leviers possibles pour ne pas payer d'impôts. Et en fait, on est à la crête de la légalité et de l'illégalité. C'est une certaine zone grise, mais tout est légal. Voilà, et ça c'est le système qui le permet, c'est le système, c'est les lois fiscales qui ont été menées et adoptées depuis un certain nombre d'années qui permettent cette anomalie.
Pour vous, c'est un problème démocratique parce que ça veut dire que l'adhésion à l'impôt de tous est menacée.
Ah ben tout à fait, et c'est surtout un problème démocratique quand une minorité de la population refuse, parce que là c'est l'idée c'est d'éviter de payer l'impôt sur le revenu, donc de refuse de participer à la solidarité nationale, au collectif, au choix de la société qui a été fait depuis des décennies. Et donc, c'est un vrai problème démocratique.
Oui, alors, vous dites qu'il refuse sciemment. C'est tout à fait possible qu'il y en ait une partie. Mais attention, dans la note, il est aussi écrit, je cite, « Il pourrait notamment s'agir de ménages retraités disposant de revenus modestes, mais ayant connu une forte revalorisation de leur patrimoine immobilier, par exemple à Paris ou dans certaines zones particulièrement attractives. »
Alors ça, c'est une minorité. Ça existe.
C'est une part de ces 13 000.
C'est une part. Mais la plus grande partie, ça, c'est une minorité hein, de gens qui ont vu leur résidence principale, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, qui a pris beaucoup de valeur.
Et qui donc et fait qu'ils ont des patrimoines de plus d'un million, mais des revenus qui ne correspondent pas.
Donc ça, c'est une minorité. Mais là, on parle aussi de l'autre partie que cette note indique, c'est ceux et celles qui ont des revenus mobiliers extrêmement, un patrimoine mobilier extrêmement important, et qui font tout pour ne pas payer. Alors, comment ils font ça? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Ils utilisent le système fiscal. Par exemple, toutes les niches fiscales qui sont aujourd'hui...
C'est quoi les niches fiscales?
Alors, les niches fiscales, c'est des crédits ou des réductions d'impôts. Alors, vous pouvez en avoir si vous avez des enfants, par exemple, qui vont à la crèche ou qui sont en cours de scolarité, vous avez un crédit ou une réduction d'impôts. Mais c'est très léger pour nous. La plupart des niches fiscales qui profitent aux plus riches, aux plus fortunés, sont des niches fiscales qui rapportent extrêmement et qui réduisent massivement l'impôt.
Ils disent qu'il y a des travaux, ils déduisent les emprunts, les impôts. En fait, alors, ils arrivent à déduire et à faire en sorte que l'impôt sur le revenu arrive à zéro.
C'est ça. Il y a le rapport de la Cour des comptes récemment qui a indiqué qu'il y a un des crédits d'impôt les plus qui profite le plus aux plus fortunés, c'est par exemple l'emploi d'une personne à domicile, donc une nounou, un homme ou une femme de ménage. Ça, ce crédit d'impôt, cette réduction d'impôt, elle profite avant tout, et ça il y a des données très précises qui ont été données par la Cour des comptes, qui ne profitent qu'aux plus riches. Et donc ça permet de réduire l'impôt. Mais il y a aussi quelque chose qui a été fait dès l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, c'est la réforme sur les revenus financiers. Donc avec la mise en place du PFU, donc la flat tax sur les revenus financiers à 30%, alors que ces derniers, avant 2017, étaient imposés sur le même barème que l'impôt sur le revenu. Sandra, donc ça baisse l'imposition
élière. Sandra Demarque, je rappelle que vous êtes à la tête donc du syndicat de la Direction Générale des Finances Publiques. Je voudrais que vous puissiez aussi en débattre avec Jean-Christophe qui nous a appelé au 3216 et qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Apolline.
Jean-Christophe, vous, ce chiffre, au fond, vous voudriez le remettre en perspective, il ne vous choque pas à ce point?
Mais 13 000 sur combien déjà?
Alors c'est 10% à peu près du nombre de nombre de personnes, de foyers, donc ça qui payent l'IFI.
Attendez. Non, Apolline, 13 000 sur combien de millionnaires? Parce que 10% des personnes qui payent l'IFI, ça veut rien dire.
Hein. Alors, on n'a pas le... Je vais être très précise, voilà. Jean-Christophe. Le chiffre le plus précis que nous ayons, c'est effectivement le pourcentage. C'est-à-dire que ces 13 000 foyers, ça représente 10% de tous ceux qui payent l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière.
De ceux qui payent l'IFI, on est d'accord. Mais combien de millionnaires en France et combien des
millionnaires payent? Par ailleurs, il y a peut-être plus de...
Voilà.
Tout à fait.
À mon avis, 3 millions de millionnaires en France. Le millionnaire, c'est à partir de 1 million, hein. C'est pas non plus insurmontable.
Tout à fait. Par exemple, quand on est propriétaire à Paris, et c'est d'ailleurs une des questions qu'on se posait, a priori, on bascule très vite dans cette catégorie-là. Jean-Christophe,
donc,
ça ne remet pas en cause pour vous l'adhésion à l'impôt?
13 000 sur plusieurs millions. Oui. Déjà, on est dans l'épaisseur du trait. Deuxième chose, Madame Sandra, j'ai pas retenu son nom, juste son prénom, elle nous dit, c'est légal. Eh ben, c'est légal, point, barre. On ne discute plus, c'est légal. Le législateur, s'il n'est pas content, il change la loi.
C'est d'ailleurs, je pense, tout à fait votre position, Sandra Nomarque, si vous puissiez dialoguer avec Jean-Christophe.
Tout ce qui est légal n'est pas juste. Et là, on a la preuve que le système fiscal aujourd'hui, il est injuste pour la majorité de la population. Est-ce que c'est normal que des millionnaires utilisent alors tout ce qui est fait, les leviers, donc la loi, les niches fiscales, mais aussi des leviers comme les holdings, hein, parce que on voilà, qui permettent de ne pas avoir de revenus. Est-ce que tout ça c'est juste? Nous, on considère que c'est pas juste. D'autant plus dans une situation où on nous dit que tout le monde doit faire un effort, que tout le monde doit se serrer la ceinture, alors qu'il y a une dette, il y a des déficits qui explosent et qu'on ne regarde pas ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est les recettes de l'État, et l'impôt sur le revenu participe aux recettes de l'État, et ce n'est pas juste que une minorité utilise à travers et avec des avocats fiscalistes la possibilité de ne pas payer de l'impôt sur le revenu.
Merci beaucoup Sandra Demarque d'avoir défendu donc votre parti pris ce matin. Secrétaire générale de Solidaires Finances Publiques, c'est le syndicat de la direction générale des impôts. Et merci à Jean-Christophe d'être venu en débattre avec nous. N'hésitez pas, vous nous appelez au 3216. Par ailleurs, je précise, vous avez mentionné la Cour des comptes. Camélie Bonchalin aujourd'hui est justement devenue la patronne de la Cour des comptes. Il est 7h20 sur RMC. L'historien d'Apolline Matin vient de rentrer dans ce studio. Arthur Chevalier, salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, deux assistants parlementaires du député LFI Raphaël Arnaud sont toujours en garde à vue après la mort de Quentin de Ranc à Lyon. Tous des proches du groupe antifasciste, la Jeune Garde.
Oui, l'antifascisme, ça remonte aux années 30. Alors à l'époque, il y avait de vrais fascistes. Aujourd'hui, Mussolini n'est plus au pouvoir. Mais ces groupuscules continuent de faire le coup de poing.
Vous allez remonter le temps. Arnaud Demanche arrive aussi pour pirater le face-à-face. Mon invité, c'est Gérald Darmanin. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et vous êtes bien sur RMC. On va remonter le temps, comme chaque matin, avec Arthur Chevalier. Arthur, 5 jours après la mort de Quentin de Ranc, un groupuscule est au cœur de l'enquête et du débat politique. La Jeune Garde. Parmi les 11 personnes en garde à vue, il y a plusieurs membres de ce groupe antifasciste, dont les deux assistants parlementaires du député LFI, Raphaël Arnaud, qui a d'ailleurs été le cofondateur de La Jeune Garde. C'est quoi ce mouvement, Arthur?
Alors déjà, c'est un groupe officiellement dissous par le ministère de l'Intérieur, hein, en juin 2025, mais la France insoumise est restée proche de la plupart de ses membres. Avant-hier, Jean-Luc Mélenchon a même réaffirmé, je cite, sa grande affection pour la Jeune Garde, des propos très engageants et quand même assez embarrassants. Hein.
D'où vient la Jeune Garde?
Alors à l'origine, c'est un groupe antifasciste assez classique. Hein. Son cofondateur, c'est donc le député LFI Raphaël Arnaud. Sa date de création, c'est 2018, et son but affiché, c'est lutter contre l'extrême droite. Au départ, ça vient de la ville de Lyon, une ville où les groupuscules d'extrême droite ont toujours été assez nombreux et très violents. La Jeune Garde voulait donc les combattre, et son slogan est clair, ce slogan, le voici, face à l'extrême droite, riposte immédiate.
C'est quoi leur idéologie?
Alors c'est l'antifascisme. L'antifascisme, un courant qui date des années 30, et qui était fait, comme son nom l'indique, pour combattre les fascistes. À l'époque, il y avait d'ailleurs de vrais fascistes, hein. Mussolini était au pouvoir en Italie, Franco était au pouvoir en Espagne. Depuis, le fascisme n'est plus au pouvoir, mais l'antifascisme, lui, ne disparaît pas. Et dans les années 70, il reprend des couleurs, mais cette fois-ci avec des méthodes terroristes. Notamment en Italie, le plus connu de ces groupes terroristes, ce sont les Brigades Rouges. Et les Brigades Rouges, c'était très violent, puisque en 1978, elles vont jusqu'à enlever et assassiner un ancien Premier ministre socialiste, il s'appelait Aldo Moro. Son corps est retrouvé dans le coffre d'une voiture, la sidération était totale.
En France, est-ce qu'on a eu des mouvements comparables?
Alors surtout un, ça s'appelait Action Directe, un groupe d'extrême gauche, lui aussi ouvertement terroriste et révolutionnaire. Entre 1979 et 1987, ses membres commettent 80 attentats, vols, braquages à main armée, mais aussi des meurtres. Ils s'attaquaient aux puissants, hein, puisqu'en 86, en plein Paris, ils assassinent à coups de pistolet Georges Bess, l'ancien PDG de Renault. Alors pourquoi ce meurtre? Apparemment parce qu'il avait, selon eux, licencié trop de monde. Les coupables sont arrêtés et condamnés à la réclusion à perpétuité. Clap de fin pour Action Directe.
Mais la Jeune Garde antifasciste se revendique, elle, d'être un mouvement non violent ?
Alors, leur doctrine, c'est ce qu'ils appellent l'autodéfense. Alors, l'autodéfense, voilà le principe. On est prêt à se battre, mais seulement si on est attaqué. Alors, une fois qu'on a dit ça, les faits ne correspondent pas exactement à la réalité, hein. Même avant le meurtre de Quentin de Ranque, il y a eu des affaires très problématiques. En 2021, après une manifestation à Lyon, 6 personnes, dont Raphaël Arnaud, s'en prennent à un garçon de 18 ans qui n'avait rien demandé. Il le force à retirer son blouson, le projette au sol, le batte. Résultat, Raphaël Arnaud est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence en réunion. Donc oui, ce mouvement est lié à la violence et n'hésite pas à faire le coup de poing.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. On va accueillir tout de suite Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Et bonjour Arnaud. Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
Oh oui, de l'humour, de l'humour. Nous reviendrons évidemment sur les conséquences de la mort de Quentin de Ranque. Hier, un deuxième assistant parlementaire LFI a été interpellé. Ah, la vache, hein. Au RN, les assistants parlementaires, ils volent des sous à l'Europe. Chez LFI, ils tuent des gens. Faut qu'ils revoient le casting de leurs assistants chez les extrêmes. Ça suffit. La jeune garde avait subi une dissolution administrative. Alors ça m'a toujours intrigué. Tu sais, on entend souvent les néo-nazis du Puy-de-Dôme, dissolution administrative. La jeune garde de Lyon, dissolution administrative. J'ai quand même pas l'impression que c'est des gens qui s'embarrassent beaucoup avec l'administratif. Non. Quoi. Et il leur faut juste un groupe WhatsApp, mais je pense pas que le mec de la jeune garde, au moment où il frappait Quentin de Ranque avec ses potes, il se soit dit « Sapristi, c'est illégal, on n'a pas le droit !» Nous sommes dans l'illégalité, les copains. J'ai oublié de remplir le bon formulaire CERFA. Comme disait Che Guevara, viva l'administration. J'ai pas l'impression. Alors Gérald Darmanin souhaite une peine d'inéligibilité contre toute personne condamnée pour avoir encouragé à la violence physique, ce qui met instantanément un terme aux ambitions politiques de Teddy Riner. Ça c'est... La mort de Quentin de Ranque a fait une victime collatérale inattendue, Dylan Guichaoua. Vous savez qui c'est ? C'est le délégué des jeunes du RN des Pyrénées-Atlantiques, parce que pour rendre hommage à Quentin de Ranque, un compte d'extrême droite a généré un visuel, mais ils se sont gourés de photos. Ils ont pris celle du Dylan en question qui, il s'est retrouvé imprimé sur tous les drapeaux avec marqué « Hommage à notre ami décédé ». Donc il est pas content, il dit « Mais moi je suis pas mort, moi !» Ce à quoi la jeune garde a répondu « Laisse-nous 5 minutes, le temps de remplir le bon formulaire CERFA. Bah, » L'ambiance est bourrine. Hein. Vous m'excuserez, je m'adapte, je fais avec ce que j'ai comme matériel. Vous savez, Pauline, dire que la semaine dernière, on trouvait que la pédocriminalité dans l'affaire Epstein, c'était un sujet délicat.
Oui, c'est vrai que là, on est passé d'un beau sujet à un beau sujet.
Qu'est-ce qu'on était naïfs, mais on ne savait pas. Allez, rendez-vous avec Gérald Darmanin pour 20 minutes de bonne humeur à 8h30. À tout à l'heure.
Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Guitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Témoignage RMC ce matin. Un ancien militant de l'UNI dénonce les méthodes brutales de Jacques-Élie Favreau, ancien collaborateur du député insoumis Raphaël Arnaud, impliqué dans la mort de Quentin de Ranque à Lyon. Des crues exceptionnelles, historiques, frappent l'ouest de la France. Nous irons à Saintes en Charente-Maritime où les sauveteurs en mer sont réquisitionnés pour venir en aide aux habitants. Et plus d'un million de comptes bancaires piratés en France, vous saurez bientôt si vous êtes concerné.
RMC vous révèle ce matin le récit choc d'un militant agressé par Jacques-Élie Favreau.
Paul, ancien militant de l'UNI à Saint-Étienne, association universitaire de droite, affirme avoir été agressé en 2023 par Jacques-Élie Favreau, ancien collaborateur du député insoumis Raphaël Arnaud, soupçonné d'avoir passé à tabac à Quentin de Ranque à Lyon. Julie Brault du service police-justice d'RMC, vous avez donc rencontré Paul qui dénonce ses méthodes brutales au sein de la jeune garde.
C'était il y a près de 2 ans et demi. Paul et d'autres militants de l'UNI, association étudiante de droite, étaient en pleine opération de tractage sur le campus de l'université de Saint-Étienne, quand tout à coup, des membres du groupe antifasciste, la Jeune Garde, les ont pris à partie.
Ils commencent à nous entourer, tenter de nous arracher les tracts, de demander de partir en nous menaçant notamment de violences physiques. Et Jacques-Élie Favreau se jette sur moi, me porte quelques coups.
Est-ce que vous avez été blessé ?
Ce qui s'apparentait à une entorse au poignet. Et quelques bleus.
Paul n'a pas porté plainte, estimant que ses blessures étaient légères, mais il a conservé une appréhension face à celui dont il redoutait systématiquement de croiser le chemin. Une véritable brute envoyée pour taper et faire fuir ses opposants, dit-il.
Il faisait partie de ceux qui, comme ils le disent si bien, c'est leur expression, pas la nôtre, tuer l'extrême droite dans l'œuf. Monsieur Favreau est aujourd'hui, il est quand même en garde à vue pour le meurtre d'un gamin de 23 ans. C'est extrêmement triste, c'est même horrible, mais ça m'étonne pas. On savait tous que ça finirait par arriver.
Jacques-Élie Favreau est déjà connu pour des faits de violence. Contacté au sujet de cette agression, son avocat n'a pas répondu à nos sollicitations.
Jacques-Élie Favreau reconnaît avoir commis des violences, mais pas avoir porté les coups mortels sur Quentin de Ranque. Deux autres collaborateurs de Raphaël Arnaud font partie des 11 personnes placées en garde à vue. Le gouvernement lui demande à l'EFI d'exclure temporairement son député de son groupe à l'Assemblée. Pas question pour les insoumis de le lâcher.
Et on en parlera à 8h30. Mon invité dans le face-à-face, ce sera Gérald Darmanin, le ministre de la Justice.
L'ouest de la France face à des inondations exceptionnelles. Maisons, routes inondées, communes coupées du monde. Et cela devrait être la journée la plus critique pour les débordements. Toujours 4 départements en vigilance rouge. Le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime. Justement, à Saintes, où vous êtes envoyé spécial RMC Amélie Courtet, les habitants ont reçu l'aide de sauveteurs en mer.
Vous allez vous laisser tomber tranquillement en arrière, on vous retient, ok ?
Combinaison orange, casque jaune sur la tête, à bord de leur Zodiac.
Voilà, super monsieur !
Ces trois sauveteurs en mer aident Jack à sortir de son appartement entouré par un mètre d'eau.
C'était difficile de rester, tout le monde était parti, plus d'électricité, disons que j'avais le bourdon.
Donc là, vous êtes rassuré de rentrer chez votre sœur?
Ah bah oui, j'espère qu'elle a préparé un bon petit plat.
On avait dit qu'on ferait des crêpes avec les enfants.
À peine le pied posé à terre,
tu te souviens de la rue ?
Les sauveteurs retournent à l'eau pour secourir Edith.
J'ai tellement eu peur.
Chez elle, tous ses meubles flottent et l'eau continue de monter.
J'aurais voulu rester, mais vu mon âge, 75 ans, je suis toute seule. S'il m'arrive quelque chose...
C'est par solidarité que le trio de sauveteurs a temporairement délaissé l'océan Atlantique. Brian est le responsable.
On est spécialisé un peu sur le domaine maritime, mais on a quand même des moyens, on a des nageurs qui sont formés pour évacuer des personnes, donc on a profité aussi de cette occasion pour aider la mer.
Un renfort inédit et indispensable, confirme la mairie, démunie, car une quinzaine de rues sont désormais accessibles uniquement par bateau.
Autre conséquence de ces inondations, 7 communes de Gironde n'ont plus accès à l'eau potable depuis lundi et la ville de Bordeaux a déclenché un plan communal de sauvegarde, une première depuis 1999. Nous serons en direct de Bordeaux dans le journal de 8h. RMC 7h34, une faille frappe le cœur des données bancaires des Français. 1,2 million de comptes en danger, annonce le ministère de l'économie. Et ils ont été consultés illégalement depuis fin janvier, Romain Houg.
Oui, Bercy ne précise pas qui est véritablement derrière ce vol de données. Une personne seule ou un groupe d'individus. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'auteur a usurpé les identifiants d'un fonctionnaire qui avait accès au FICABO, un fichier recensant l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France. Les données qui ont fuité sont nombreuses. Le RIB, l'IBAN, l'identité du titulaire, son adresse et dans certains cas, l'identité fiscal de l'usager, indique Bercy, qui précise toutefois que rien ne permettrait de consulter le solde des comptes bancaires ni de réaliser un paiement par carte ou de faire un virement. La Fédération bancaire française invite quand même à la plus grande prudence. Les fraudeurs peuvent dans certains cas demander l'exécution de prélèvements à partir d'un IBAN ou souscrire à des abonnements ou des services. Bercy va contacter les personnes concernées par cette fuite, mais en attendant, mieux vaut consulter régulièrement son compte dans le détail pour détecter toute anomalie et contester sans délai tout mouvement suspect.
Romain Houg, des parents d'élèves, accusent dans une tribune publiée ce matin dans Libération la mairie de Paris et l'école de silence face à des violences sexuelles sur des enfants dans une maternelle du 3e arrondissement. Anne Hidalgo reconnaît une part de responsabilité, mais assure avoir agi. Les familles réclament justice pour leurs enfants traumatisés par des faits commis entre 2018 et 2019 par un animateur qui a été suspendu par la ville. RMC, 7h36, nouvelle chance de médaille aujourd'hui au JO de Milan.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
L'heure est venue pour Vincent Maharavo en ski halfpipe. Le skieur freestyler s'apprête à vivre le rendez-vous le plus important de sa carrière, porté par un rêve d'enfant devenu réalité.
Vincent Maharavo est son propre patron. Il a créé sa structure. Oui, la Fédération Française de Ski n'a pas d'équipe de France de halfpipe et il est le seul athlète à lui de tout payer. Coach, kiné, préparateur physique.
Moi, je fais des saisons, ça peut paraître beaucoup, mais qui me coûte environ 40 000 euros. Ce qui me coûte très cher, c'est surtout le salaire de la coach, les déplacements de la coach, parce qu'en fait, je fais des saisons fois deux. Je me limite quand même assez sur le confort.
Maharavo finance la moitié de sa saison avec ses sponsors personnels, des aides régionales et son poste de réserviste à l'armée. Il a aussi contracté un prêt auprès de sa banque. Pour le reste, le skieur se mue en MacGyver. Il a un food truck, a vendu des crêpes sur un marché et son chalet dans les Pyrénées, il le loue.
Il y a eu quelques fois, la saison dernière par exemple, où ma maison était louée et quand je rentrais de Coupe du Monde, j'avais nulle part où dormir puisque mon chalet était loué. Et donc je dormais dans ma voiture, sur le parking, devant chez moi. Donc je voyais mes locataires rentrer dans ma maison.
Les Jeux, un coup de projecteur pour le sortir de la précarité.
Reportage de Morgan Moriabibay, coach de l'OM. Le club l'a officialisé cette nuit. Objectif, soulever la Coupe de France et monter sur le podium de la Ligue.
Et puis le Quintet Vincennes, 13h55.
Et le pronostic de la Dream Team des concerts RMC, leur favorite, est le 15, Guess Fouto, et leur outsider est le 7, Franco Fleury.
C'était le journal de Clément Guidi, les 7h38. On part au 32-16, vous êtes nombreux à réagir à la fois à ces chiffres considérés comme explosifs, parce que niés d'abord par la ministre du budget elle-même, il y a 13 000 foyers fiscaux millionnaires qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Mais Magali, justement, vous vouliez remettre les choses en perspective. Bonjour Magali.
Bonjour Apolline.
Comment ça va? Vous êtes comptable à Colmar, donc dans le Haut-Rhin. Vous avez écouté mon invité à 7h10, qui représente le syndicat de Bercy, enfin en réalité de la branche impôt de Bercy. Je vous écoute Magali.
Voilà, moi j'ai réagi tout de suite parce que ça m'agace de dire toujours oui, il y a des niches fiscales, les gens ils se jettent dedans. Sauf que là, en l'occurrence, elle a cité les femmes de ménage.
Oui.
Les gens qui profitent de cette niche, effectivement, il y a une réduction d'impôt hein, autour de 50%, mais en même temps, ça fait travailler des gens. Moi, oui. Je travaille, en ce moment, c'est pas difficile, je travaille 8h, 20h, hein. Oui. J'ai pris une femme de ménage, et je me dis, à chaque fois qu'elle vient, je me dis, mais au moins, cette dame, c'est une dame dans la précarité, qui a des difficultés, mais au moins, la fête qu'elle vienne chez moi, qu'elle fasse le ménage, c'est 2 heures de travail, où elle n'est pas au chômage, où elle n'est pas, en même temps, indemnisée, du coup, par l'État aussi. Alors, évidemment, c'est plus les impôts, c'est une autre branche de l'État qui va financer le chômage.
Mais c'est vertueux, pour vous, c'est vertueux. C'est ça ce que vous voulez dire. Et effectivement, on se souvient aussi d'ailleurs que quand cette niche fiscale, comme on l'appelle, en réalité c'est une déduction en effet, c'est une sorte de crédit d'impôt qui a été créée, c'était aussi précisément parce qu'on constatait qu'une partie de ces emplois n'étaient pas déclarés. Là, non seulement ça permet de les déclarer, mais en effet, ça encourage aussi à pouvoir déduire. Magali, vous y pensez, et si vous n'aviez pas eu cette déduction d'impôt, vous pensez que peut-être vous n'auriez pas pris cette femme de ménage?
Je pense que ça fait effectivement partie des choses où ça a été mis en perspective. Enfin, moi, j'ai une aide de mon employeur par le comité d'entreprise. Donc, je peux bénéficier à la fois de l'aide de mon employeur et à la fois de la niche fiscale. Mmh. Et évidemment, ça me revient pas très cher, mais j'en profite.
Ça fait partie aussi, effectivement, du deal. Merci beaucoup, Magali, et bon courage, puisqu'effectivement, en ce moment, vous avez l'air d'avoir des très longues journées. Vous êtes charrette, comme on dit. Magali, qui nous appelait de Colmar, comme elle, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et c'est le moment des fameuses négociations entre grande distribution et producteurs de l'agroalimentaire. Coup de pression, tension, ça coince encore plus que d'habitude. Ils accusent la grande distribution de vouloir détruire l'agroalimentaire. Ça, c'est ce que disent les marques que vous représentez. Jean-François Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes partie prenante dans ces négociations puisque vous représentez les industriels de l'agroalimentaire. Est-ce que vous allez finir par vous entendre et quelles conséquences pour les prix dans les rayons? Je vous pose la question dans un instant. On va plonger avec vous dans les coulisses de ces négociations. 7h41.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 et vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story Canal 23. Quel prix pour nos produits dans les rayons? C'est en ce moment que ça se joue et on va prendre le temps ce matin d'y voir plus clair dans les négociations commerciales. Elles ont débuté il y a un mois, elles se terminent dans 10 jours, le 1er mars à minuit. Jean-François Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'ANIA, c'est l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Vous représentez la charcuterie avec Herta et Prunier, vous représentez des laitages, Malo, Danone, des biscuiteries, Jacquet, biscuits, des bonbons Haribo, toutes les marques que l'on trouvera ensuite dans nos rayons. C'est en ce moment même qu'elle négocie avec la grande distribution. Et on a l'impression que c'est plus violent que d'habitude. Vous accusez même la grande distribution de vouloir, je vous cite, détruire le tissu industriel français en tirant volontairement les prix vers un bas trop bas, c'est-à-dire ?
Depuis 15 ans à peu près, systématiquement, les prix des produits alimentaires doivent baisser pour le consommateur. Alors, ils ne doivent pas être chers. D'ailleurs, je précise au passage que ce sont les distributeurs qui fixent le prix des produits dans les rayons. Ce ne sont pas les 22 000 entreprises agroalimentaires que je représente. Et dans ces 22 000 entreprises, je le précise, il y a 98% de TPE, c'est-à-dire des toutes petites entreprises et de PME.
Des biscuiteries familiales.
Familiales, des entreprises familiale. Et dans tous les départements français. Et donc, pendant cette période-là, qui part du 1er décembre jusqu'à la fin du mois de février, il y a une compression de tension parce que il faut négocier. Donc des possibilités d'aller vendre dans les grandes surfaces, et nous en avons besoin, les grandes surfaces, et qui représentent 70% de l'offre en rayon.
Mais qui est le maître du jeu ? J'aimerais quand même comprendre comment ça se passe. La plupart du temps, ça se passe dans des box. Vous avez effectivement les représentants de vos marques qui arrivent avec leur cahier des charges. Vous avez face à vous un représentant de la grande distribution qui va vous dire « Moi, je veux tel volume de produits, mais je te les achète à temps. » Et est-ce que vous avez une petite marge ? Est-ce qu'il y a du temps ? Est-ce que vous pouvez discuter ? Comment ça se passe concrètement ?
Alors, en France, il y a trois chiffres simples. À peu près 500 000 agriculteurs, à peu près 20, 22 000 entreprises, à peu près 4, 5 distributeurs, les majors. Hein. Donc là, je dirais que la messe est dite en termes de pression et d'influence.
Quand la nous arrivons, concentration de la grande industrie, de la grande distribution fait que finalement, vous n'avez plus beaucoup de marge.
Donc, on n'a pas beaucoup de marge. Et notamment les PME, je le précise. Et donc, quand une PME arrive pour proposer ses produits, elle dit, moi, j'ai eu des hausses de salaire. Il faut bien payer les salaires. J'ai eu des hausses d'énergie, d'assurance, de taxes, de charges classiques. Donc, je dis à mon distributeur, j'ai besoin de plus 3% d'augmentation sur ces produits-là. Le distributeur, systématiquement, mais ça, c'est culturel en France de la part de nos distributeurs, c'est tout de suite moins. Non, c'est moins. L'alimentaire, c'est moins. Mais c'est le seul, je dirais, produit vendu aujourd'hui en France où systématiquement, il faut vendre moins cher. L'alimentation, c'est un prix, c'est un coût, c'est une valeur. Et que fait-on du travail des agriculteurs, du travail des 20 000 entreprises ? On veut la meilleure alimentation, et nous avons la meilleure alimentation. Bien, moi, je regrette, elle mérite un prix juste. Et nous n'avons pas le droit d'être, je dirais, un petit peu estorqués hein, pendant ces derniers mois et ces dernières semaines sur l'autel, finalement, du pouvoir d'achat. Et finalement, nous nous rendons compte que ce sont les distributeurs qui font une guerre terrible entre eux, justement, pour se prendre des parts de marché.
À la fin, on arrive à combien ? À quelle part, pour vous, d'inflation, on va arriver ?
Alors, heureusement, il n'y a plus l'inflation qu'on a connue pendant la période de crise, notamment à cause de la guerre. Et c'est pour cela que les prix avaient beaucoup augmenté. Donc, nous avons en moyenne, je dis bien, demandé 2,5 à 3,5% d'augmentation. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, les salaires, les assurances, les transports, l'énergie, etc. Et les négos vont se terminer, comme toujours, entre 0 et moins 4, 0 et moins 7. Alors, quelquefois, il y a quelques hausses obligatoires. Et il ne faut pas oublier une chose essentielle.
Entre 0 et moins 7 ?
Mais 0, moins 3, 0, moins 4.
Pour vous, ceux qui produisent, vous n'augmenterez pas vos prix.
Exactement.
Donc s'ils augmentent dans les rayons, ça veut dire que ce sera la grande distribution qui aura augmenté sa marge.
Mais c'est vous qui le dites, exactement. Mais depuis des années, il y a eu systématiquement des baisses de négociation de prix entre l'industriel, quelle que soit sa taille, et la grande distribution. Et je voudrais rappeler quand même que le synchro-sein, nous l'avons tous dit, c'est pour ça que nous avons signé une charte, c'est que le prix de la matière première agricole doit être sanctuarisé. Ça veut dire on paye aux agriculteurs le vrai prix des produits agricoles. Mais ça veut dire qu'entre le prix du produit agricole qu'il faut officialiser et respecter et le prix en distribution, il y a une espèce de goulot d'étranglement. Et l'industrie, quand je dis l'industrie, je parle des petites entreprises que je connais très bien, elles sont prises dans ce goulot d'étranglement.
Et moi, je voudrais essayer de comprendre la différence entre le chiffre que vous nous annoncez. C'est-à-dire, vous nous dites, à la fin des négociations, on va se retrouver avec moins 0,7...
Alors, ça peut être plus 3. Hein.
Et 0. Et de l'autre côté, on a, par exemple, hier, Alexandre Bompard, qui est le patron de Carrefour, qui dit qu'à la fin, on va se retrouver avec à peu près 1% de hausse. Donc, comment ça se passe? Comment c'est possible qu'on arrive à une différence?
Mais de toute façon, on comptera, hein, à la fin de, je dirais, de cette période, malheureusement, beaucoup de dégâts dans l'agroalimentaire. Parce que faut pas oublier que ce sont en majorité des petites entreprises.
Je voudrais comprendre. Ça veut dire que vous, on va vous acheter vos produits au même prix que l'an dernier, voire un peu moins cher.
Oui.
Mais à la fin, ils seront vendus 1% de plus que ce qu'ils n'étaient cette année.
Ah, mais ils peuvent être vendus beaucoup plus cher. Je le répète, c'est la grande distribution.
Donc le chiffre que donne la grande distribution, en fait, il ne reflète pas vos échanges. Il reflète les prix que eux décideront à la fin de mettre dans les rayons.
In fine, ce sont eux qui décident du prix qu'ils mettront en grande distribution.
Vous dites, vous alertez ce matin, il y a tout un tissu d'industrie agroalimentaire en France qui va disparaître.
Il y a malheureusement
qui est menacé.
Un tissu d'industrie qui va disparaître et qui est menacé. Mais on ne le voit pas beaucoup. Vous savez, c'est comme cette petite piste bleue là au ski, là, c'est la période. Petite descente, tous les ans ça baisse. Regardez le commerce agroalimentaire. Nous étions sur le podium, les troisièmes il y a 15 ans. En termes d'exportation, nous en avons tous besoin, quelle que soit la taille des entreprises. Nous sommes aujourd'hui importateurs. Importateurs alors
que nous... Ça veut dire qu'aujourd'hui, on exporte moins
que l'on importe. Donc c'est un vrai drame. Et donc les entreprises, eh bien, elles mangent leur capital, elles mangent leur retraite, elles n'investissent plus dans l'innovation, dans la décarbonation. Elles ne peuvent pas payer correctement les salaires. C'est ça notre problème. Et dans le monde de la ruralité, nous avons des entreprises partout. Il faut payer les salariés mieux et correctement.
Merci d'avoir alerté ce matin. Jean-François Loiseau, vous êtes donc le président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Et on continuera évidemment à suivre ces négociations qui se poursuivent jusqu'au 1er mars minuit. C'est la voix de gauche ce matin puisqu'il est 7h51 et c'est Cécile Duflot qui vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Vous vouliez revenir sur le climat de tension en politique après la mort de Quentin Derenck samedi à Lyon.
Oui, la politique c'est parlementer, c'est régler les conflits par la parole et pas par les coups de pied et les coups de poing. Il faut que tout le monde se calme.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h52 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, nous sommes jeudi, c'est la voix de gauche dans un instant. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec une surprise ce matin, un retour.
Oui, on va reconnaître le style et la voix qui fait... C'est bien U2 qui a publié hier un mini-album de 6 titres surprises, Days of Ash, 6 titres de pure U2, du rock, des ballades, un poème mis en musique aussi. 6 titres engagés, hommage à Renée Nicole Good, la militante de Minneapolis, tuée par la police de l'immigration en janvier. Toutes les causes, ou presque, y passent. Femme, vie, liberté en Iran, la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine. Nous discutons beaucoup du moment opportun pour sortir de nouveaux titres, dit le batteur de U2. Et au vu de la situation actuelle dans le monde, le moment semble bien choisi, ajoute-t-il. L'album se termine par un morceau écrit et interprété par U2, Ed Sheeran et Taras Topolia, un chanteur ukrainien. C'est une chanson qui s'appelle Yours Eternally.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
7h54, nous sommes jeudi et le jeudi, c'est la voix de gauche. Cécile Duflot, deux des assistants parlementaires du député LFI, Raphaël Arnaud, sont toujours en garde à vue ce matin après la mort de Quentin Derenck. Et ce matin, vous vouliez lancer un appel au calme.
Oui, il faut faire baisser la violence politique et c'est la responsabilité des politiques justement. Parce que Quentin Derenck n'est pas mort dans une bagarre classique, il est mort lors d'un affrontement entre deux bandes, très organisées, très politisées et même, on peut dire, polarisées. Et dans une démocratie qui fonctionne normalement, tout le monde aurait été consterné, désolé, aurait condamné et aurait appelé à ce que la police et la justice fassent leur travail le plus rapidement possible.
Donc vous dénoncez une forme de surenchère, Cécile ?
Oui, parce qu'on a assisté quand même de ces derniers jours à une forme de surenchère mutuelle entre le gouvernement et des ministres qui se sont exprimés de manière pas du tout prudente, entre certaines personnalités politiques et aussi les représentants de LFI qui sont de fait impliqués, étant donné que un de leurs parlementaires est très lié aux mises en cause des coups qui ont entraîné la mort du jeune homme. Donc il y a cette réalité de cette intrication avec la politique.
Pour vous, le climat politique en France, il est inquiétant ?
Tout ça s'inscrit en plus dans une montée des actes de tension et de violence autour des politiques et au sein du débat politique. Autour, il y a eu des attaques de permanence, il y a eu des harcèlements sur les réseaux sociaux, des manifestations devant les domiciles, ça ne se faisait quand même pas du tout. Et hier encore, le dépôt d'une bombe artisanale dans le jardin d'un des ingénieurs du projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. On peut aussi dire que les débats parlementaires se sont fortement tendus. Il y a eu beaucoup de procédures disciplinaires, beaucoup de cris, d'invectives, des accrochages. C'est un souci.
C'est pas tout à fait nouveau.
C'est vrai, c'est pas nouveau. Il y a eu plein de moments de violence aux politiques, y compris des parlementaires qui réglaient leurs différends dans des duels. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que justement, le principe même du débat parlementaire, c'est de parlementer, c'est de résoudre les conflits par la discussion, par l'échange. Et là, aujourd'hui, ce qui me semble problématique, c'est qu'une partie des politiques essaye pas de résoudre et de faire baisser les conflits et la tension dans la société, mais au contraire, ils les attisent, et notamment du côté de l'extrême droite, qui aujourd'hui sont en situation de donner des leçons, alors qu'ils ont eux aussi été très dans l'alimentation et dans l'incitation à la tension autour des faits divers, par exemple. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a deux auteurs, Emmanuel Rivière et Nicolas Prissette, qui ont étudié cette soi-disant tension française dans un livre qui va paraître le 5 mars, que j'ai eu la chance de connaître, et qui s'appelle « La guerre civile n'aura pas lieu ». Et le résultat de leur travail, il est édifiant, parce que la société française se perçoit comme violente, elle reproduit le discours politique. Plutôt, c'est une sorte de miroir qui lui est tendu par les politiques, mais parce que ce qui est intéressant, c'est quand on pose la question aux gens, et vous, dans votre environnement proche, dans votre village, dans votre vie personnelle, ben là, ils ne constatent pas de violence. Donc, en fait, c'est vraiment cette perception.
Mais cette perception, justement, ils en perçoivent quoi, eux, du climat de violence en politique, les Français?
Ben là aussi, ils sont très, très opposés. Donc, je veux le dire à tous les politiques qui croient que la société se polarise et qu'il faut accentuer cette polarisation. La violence est rejetée comme un moyen de l'action politique par 80% des Français. Et c'est très stable. Depuis 10 ans, ça ne bouge pas. Et donc, je pense que les politiques seraient bien inspirées de redonner du calme, de l'apaisement et de la modération, ce qui n'exclut ni les divergences, ni les débats politiques, ni le fait de clarifier les responsabilités dans des situations dramatiques. Mais dans un moment où toute notre énergie collective devrait être mobilisée pour faire face à des défis bien plus complexes, ce sont les tensions géopolitiques, et vous en parlez à longueur de journée, les conséquences du dérèglement climatique. La France est directement menacée. Nous avons besoin d'unité nationale.
La voix de gauche le jeudi sur RMC, Cécile Duflot. Dans un instant, il est 7h58, on se retrouve pour la météo et le journal. Et puis l'économie aussi, ce sera avec Emmanuel Le Chypre. Attention, les stations-service sont en danger, il nous le dit dans un instant, 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La météo, la pluie encore, Géraldine.
La pluie, le vent, les avalanches. Pour aujourd'hui, c'est une situation extrêmement compliquée sur le pays. Les départements en vigilance rouge pour les crues ne changent pas. Maine-et-Loire, Charente-Maritime, Gironde, Lot et Garonne. À noter que le pic de crue a été atteint à Bordeaux. Le pic a été atteint à 6,85 m. 15 autres départements sont en vigilance orange pour les crues, essentiellement près de l'Atlantique. À noter aussi qu'on a le risque de submersion près de l'Atlantique. Les départements des Alpes en vigilance orange pour les avalanches. Et à partir de midi, les Pyrénées-Orientales et l'Aude en vigilance orange pour le vent qui pourra atteindre les 130 voire 140 km par heure. Mais sur tout le pays, on a de nombreuses averses aujourd'hui. Le sud-ouest va être particulièrement touché. Puis beaucoup de vent de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Attention aussi aux coulées de neige sur les Alpes, bien sûr, mais également vers les Vosges et le Massif central. Les températures en baisse cet après-midi. Ça va remonter ensuite, mais pour cet après-midi, il fera généralement 8 à 12 degrés. 13 à 17 si vous êtes près de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
8h passées de 1 minute. Très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une partie de la France immergée, ça n'en finit plus. Nous irons à Bordeaux dans ce journal où le niveau de la Garonne vient d'atteindre son pic. La fin ce jeudi, des gardes à vue pour 11 suspects interpellés après la mort de Quentin Derenque. Parmi eux, trois proches du député insoumis Raphaël Arnaud. Certains devraient être présentés à un juge d'instruction dans la journée. Échaussez vos skis de peau de phoque ce matin. On vous emmène à Bormio pour les épreuves de ski alpinisme. Nouvelle discipline au jeudi vers de Milan Cortina.
De l'eau, encore de l'eau, toujours de l'eau.
Et jusqu'aux genoux pour certains, et cela fait des jours que ça dure avant une accalmie. Demain, il va falloir encore subir cette pluie aujourd'hui, conséquence de la tempête Pedro, des champs submergés, des habitations inondées et des cours d'eau qui gonflent à vue d'œil. Comme à Bordeaux ce matin, où le plan de sauvegarde est activé pour la première fois depuis plus de 25 ans. Sur place, c'est en direct notre correspondant Pierre Bourgès. Le pic de crue de la Garonne vient tout juste d'être atteint, Pierre.
Exactement, 6,85 mètres. On est à quelques centimètres des niveaux de 1999, mais pour l'instant, plus de peur que de mal. Les quais à Bordeaux ont été inondés, mais cela arrive régulièrement en période de grande marée, comme c'est le cas ce matin. Et pour l'instant, dans le quartier Bacalan, où je me trouve au nord de Bordeaux, tout va bien. L'eau n'a pas touché les habitations, mais le quartier reste sous surveillance. Tout de même, certaines routes restent coupées. Écoutez, Véronique, qui habite au bord de la Garonne, ici dans le quartier, elle est venue à pied ce matin pour vérifier le niveau de l'eau.
Très peur cette nuit, pas trop dormir. Et là ce matin, je suis venue voir, je viens à droite, à gauche pour regarder si elle est montée, quoi. Et là, il ne reste pas beaucoup, 50 cm je vois. J'ai vu les quais aussi en photo, ils sont inondés. Il me tarde que ça passe. J'ai très peur. Ouais, je le dis franchement, j'ai très peur.
Voilà, et une inquiétude partagée par d'autres habitants. Hein. Un autre habitant que j'ai vu ce matin, qui est venu à vélo, me confie avoir très rarement vu la Garonne à ce niveau. Un autre venait depuis 6 heures pour vérifier le niveau, puisqu'il habite à côté. Et depuis hier soir, le plan communal de sauvegarde a été déclenché pour assurer la protection de la population. Une première depuis 27 ans. La ville reste pour le moment en alerte, puisqu'un autre pic aura lieu ce soir, au moment de la prochaine pleine mer.
Pierre Bourgès, en direct de Bordeaux. Ce matin, la Gironde qui reste donc en vigilance rouge cru avec trois autres départements. C'est le cas du Maine-et-Loire où un homme est toujours porté disparu ce matin. Attention aussi aux avalanches. Dans les Alpes, quatre départements sont en vigilance. Des coulées de neige qui se sont multipliées ces derniers jours, comme au Villard, près de Saint-Jean-de-Belleville en Savoie, où un mur de neige s'est formé, bloquant la seule route qui relie le hameau au reste de la vallée. Et des vacances gâchées pour Cindy et sa famille, vacancières du Pas-de-Calais.
Bah là, c'est jeu de société. Bah après, il fait beau, donc bataille de neige. On essaie de s'occuper autour du logement. Bah après, c'est sûr qu'ils préfèrent être sur les pistes, mais bon. Un habitant là du village nous a dit, allez voir, c'est même sympa à regarder le déblaiement de l'avalanche avec les gros engins. Et bon, c'est pareil, c'est 1,5 km d'ici. Donc avec notre petite de 5 ans, c'est pas possible, quoi.
Il est 8h04, vous écoutez RMC, une avancée importante attendue aujourd'hui, une semaine après la mort de Quentin Derenck, militant nationaliste de 23 ans, battu à mort à Lyon, lynché à l'issue d'une bataille rangée entre membres de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. 11 personnes ont été interpellées depuis, placées en garde à vue. Julie Brault du service police-justice, vous suivez ce dossier pour RMC, vous êtes en direct de Lyon ce matin où les premiers gardés à vue dans cette affaire devraient être présentés à un juge d'instruction en fin de journée.
Oui, il devrait être déféré ce soir en vue de leur éventuelle mise en examen. Et tout l'enjeu, c'est de savoir ce qu'il va notamment advenir des 7 suspects principaux soupçonnés d'avoir directement frappé Quentin Derenck. Parmi eux, Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire de l'insoumis Raphaël Arnaud. Par la voix de son avocat hier soir, il a reconnu, je cite, la commission de violence jeudi dernier, mais il a assuré qu'il n'était pas l'auteur des coups mortels. Reste désormais à savoir quel type de faits seront retenus contre lui alors qu'il est à ce stade mis en cause pour homicide volontaire. C'est aussi la question qui se pose pour deux autres collaborateurs de Raphaël Arnaud, eux aussi soupçonnés d'être les auteurs de coups de pied et de poing, notamment assénés dans la tête de Quentin Derenck. Quant aux autres suspects, on sait que la majeure partie d'entre eux étaient proches de l'ultra-gauche. Certains étaient même fichés S en lien avec leurs engagements militants. Seuls 4 suspects ne sont pas directement liés à l'affaire, mais sont soupçonnés d'avoir hébergé ou caché les autres mis en cause.
Julie Brault, service police-justice RMC en direct de Lyon ce matin, et la réaction de l'Élysée, le président de la République qui se dit préoccupé. Chacun doit faire preuve de calme et de respect. Il faut éviter tout engrenage de la violence. Une affaire qui divise la classe politique avec peut-être des conséquences sur les élections municipales et à 3 semaines du scrutin. Coup de projecteur ce matin sur Marseille. Émission spéciale des Grandes Gueules en direct de 9h à midi sur RMC depuis le Palais de la Bourse, Marseille où le Rassemblement National continue de faire son trou au point de menacer le maire sortant Benoît Payan, crédité de 31% des voix au premier tour, au coude à coude donc avec le candidat RN Franck Alizio à 29% selon un sondage Elab pour BFM TV et La Provence. Et parmi les thèmes de campagne, la sécurité, la lutte contre le narcotrafic, mais aussi la rénovation des écoles, à l'origine d'un plan sur 10 ans pour 1,5 milliard d'euros. Anna Jozard.
À la place de l'école nationale, il n'y a plus aujourd'hui que des tractopelles.
Tout a été détruit, c'était une école entière qui était derrière nous.
Michael Bregliano enseigne ici depuis presque 20 ans et il énumère les problèmes qui ont conduit à cette rénovation complète.
Des difficultés de structure, des difficultés d'exiguïté, des difficultés d'hygiène, d'infiltration et malheureusement c'est ce qu'on trouvait dans de nombreuses écoles et qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Pour répondre au délabrement de ces écoles, la mairie et l'État ont mis en place un plan à plus d'1,5 milliard d'euros il y a 5 ans. Mais selon Romain Cimarano, porte-parole de la candidate d'hiver droite Martine Vassal, cet argent n'a pas été bien utilisé.
La vérité, c'est celle que ressentent nos enfants dans nos écoles aujourd'hui. Il y a encore des murs qui s'écroulent, il y a encore des moisissures et ça, on ne peut plus l'accepter.
Le candidat RN critique lui aussi la gestion par la mairie de la rénovation des écoles. Thomas Battesti est l'un de ses colistiers et il pointe du doigt notamment le chantier d'une école marseillaise qui est dans le viseur de la justice après un signalement du préfet.
Le fait qu'il y a eu une enquête pour favoritisme qui a été mise en place, tout ça contribue à faire comprendre aux Marseillais que il y a de l'argent a été dépensé pour rien.
Le maire sortant, candidat à sa réélection, assure lui avoir fait en un mandat beaucoup plus pour les écoles que lors de ses 25 dernières années.
Et justement, un mot pour vous dire effectivement que nous serons à Marseille aujourd'hui à 9h, les grandes gueules sur RMC et RMC Story en direct et en public depuis le Palais de la Bourse à Marseille. Et puis ce soir, j'animerai le premier des grands débats des municipales. Coup d'envoi des municipales, c'est à 20h55. À suivre sur BFM TV et BFM Marseille pour entendre donc les principaux candidats à la mairie de Marseille. Il est 8h08.
Un décret ce matin paru au journal officiel. Les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP vont désormais pouvoir être équipés de pistolets à impulsion électrique, autrement dit des tasers, autorisation expérimentale pour 3 ans, visant à permettre aux agents de maîtriser les situations violentes dans les réseaux de transport. On prend maintenant la direction de l'Italie.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
Après la 17e médaille pour le clan tricolore hier sur le relais féminin en biathlon, on va suivre de près ce jeudi les épreuves de ski alpinisme. Léna Marjac à Bormio ce matin en direct. C'est là que vont se dérouler les épreuves de cette nouvelle discipline des Jeux Olympiques insolites et spectaculaires.
Oui, et aujourd'hui on va commencer par un format particulier, le sprint. C'est un format court, c'est très intense, c'est moins de 3 minutes d'effort et c'est à répéter lors des séries, des demi et de la finale en cas de qualification. Et donc l'objectif c'est de grimper la montagne à l'aide de pots de phoque sous les skis en passant par quelques difficultés puis de descendre la piste un peu en mode slalom. Et évidemment le premier qui passe la ligne d'arrivée s'impose et la France fait partie des grandes favorites. Que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, Émilie Arope et Thibaut Anselmet sont les deux têtes d'affiche du ski alpinisme français. Et tous les deux rêvent d'or dans ces jeux. Arope, chez les femmes, a remporté 2 étapes de Coupe du Monde cette saison. Anselmet est double vice-champion du monde. Et clairement, pour leur première aux Jeux Olympiques, les Français pourraient marquer l'histoire de leur sport.
Léna Marjac, qu'on retrouvera au commentaire de cette épreuve de ski alpinisme cet après-midi sur RMC. Puis c'est officiel. Habib Bey est de retour à l'OM après en avoir été le capitaine. Il va s'installer sur le banc marseillais jusqu'en 2027.
C'était le journal de Thibaut Texer, 8h10. On parle économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre, la nouvelle loi de programmation de l'énergie va être fatale à de nombreuses stations-service.
Et oui, un des objectifs de cette loi de programmation de l'énergie, c'est de réduire de 6% par an la consommation de carburants fossiles, ce qui nous amènerait d'ici 2035 à une consommation inférieure de 45 à 50% à ce qu'elle est aujourd'hui. Or, c'est quoi le modèle de la station-service ? C'est des marges faibles sur le litre vendu, et donc, pour être rentable, il faut vendre énormément de quantité, sachant que les revenus tirés de la boutique ou de certains services, comme les colis par exemple, ne peuvent pas entièrement compenser. Donc si les volumes baissent de moitié, certaines stations rurales, souvent indépendantes, vont devenir non rentables. Le maillage territorial va se fragiliser. Il faudra faire davantage de kilomètres pour trouver une station qui subira moins de concurrence, donc qui fera payer l'essence plus cher. Bref, tant pis pour les ruraux.
Combien de stations pourraient disparaître ?
Alors, songez qu'il y en avait 40 000 dans les années 80. Il n'y en a plus que 11 000 aujourd'hui. Et là, d'après les dernières estimations, on peut redouter que 2 000 à 3 000 stations-service mettent la clé sous la porte dans les 10 ans qui viennent. En fait, tout va se jouer sur la vitesse d'électrification du parc automobile, la volonté de soutenir les stations rurales, les prix des carburants et le comportement des grandes surfaces.
On peut envisager aussi un scénario dans lequel les stations-service s'adapteraient.
Oui, absolument.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer comment seront les stations-service de demain ?
Alors, inutile de vous dire que tous les cabinets de conseil en stratégie fort sur le sujet.
Quel cabinet de conseil en stratégie, déjà le conseil.
Les McKinsey, les BCG, tout ça, ça phosphore sur l'avenir des stations-service. Alors, tous ont à peu près la même vision, des stations-service qui misent sur la recharge électrique, mais ça c'est valable sur les grands axes et en ville. Une borne rapide, ça coûte entre 100 000 et 200 000 euros à installer. Plus on s'éloigne des villes, plus il faudra jouer sur les services, des petits supermarchés, des hubs de mobilité, des services publics locaux, développer le côté lieu de vie plutôt que lieu de passage. stage avec de la restauration, par exemple. Bref, le grand défi, ce sera de faire venir dans les stations-service des clients qui n'ont pas besoin de carburant. Et ça, effectivement, il faudra peut-être que les communes aident aussi. Mais c'est un véritable enjeu d'aménagement du territoire.
Merci Emmanuel, il est
8h12. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint à 8h30. L'invité du face-à-face, notez-le, ce sera le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il vient évidemment réagir après la mort de Quentin Derenck à Lyon ce week-end. Et puis juste après, Nicolas Canteloup et ses imitations. Face à Canteloup, c'est tous les jours à 8h50 sur RMC. On se retrouve dans un instant, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
Tous les jours de manche. Bonjour.
Il est 8h15, c'est tous les jours qu'il est avec nous pour notre plus grand plaisir, Arnaud de Manche.
Et oui, c'est moi. Bonjour les amis. Apolline, vous êtes en forme? Ça va? Prête pour la journée marathon?
Ça va être longue cette journée.
Ce matin, il y a la matinale, après il y a le 9-10, et ce soir, vous serez à Marseille pour le débat des municipales sur BFM avec Benoît Payan, Martine Vassal, Franck Alizio et Sébastien Delogu. Et bon courage! Faudra que vous adaptez à la langue locale.
Ah oui.
Mais je vous fais confiance, vous allez nous faire. Bonsoir les collègues, le B c'est le F, le F c'est le M, bienvenue sur BFM la famille. On salue notre régie à Paris, PSG enculé, Benoît Payan t'y est tarpin bien dans les sondages Mino, mais Martine Vassal elle craint des gains. Alors est-ce que ça peut fumer le pneu dans la dernière ligne droite, le sang de la veine? Écoutez madame de Malherbe, d'abord bravo pour vos efforts, hein, mais on me parle normalement en fait. Oh mon gâté, tu te calmes le boss. Contresens mon chéri, tia, contresens. Où t'étais quand je mettais des 5 euros de sens? Allez, on va passer la parole à Sébastien Delogu. Pourquoi les Marseillais devraient voter pour vous, monsieur Delogu? Bon, vous savez, j'ai viendu à la politique pour transmettre mes idéales. Et je pense, même si ça fait mal à la tête, je pense que les Marseillais, auxquels je leur dis, croyez en moi. Ça va être bien. J'espère que vous aurez une belle audience, même si ce soir à Marseille, c'est soirée Ligue des Champions. Ah ben non, c'est pas soirée Ligue des Champions. Vous devriez scorer alors. À part ça, autre interview qui fait beaucoup parler, c'est aux États-Unis, Barack Obama, qui a affirmé que les extraterrestres existent, mais qu'il n'en avait jamais vu. On en a parlé cette semaine avec Arthur. Ça, c'est encore des secrets qui mouillent l'élite. Ça, c'est comme dans l'affaire Epstein. Si ça se trouve, il y a des dossiers et tout. On va découvrir que Alf, l'extraterrestre, a été présenté à Jeffrey Epstein par Woody Allen.
Salut, c'est Alf. Et voilà de la planète Malbach. Et toi, de quelle planète viens-tu, Willy?
Je ne m'appelle pas Willy. Je m'appelle Jack. Et je viens de l'Institut du Monde Arabe.
T'as pas une tête d'humain, Willy? Il paraît que c'est ici qu'on peut manger les chats. Ils sont où, les petits chats?
Cher jeune homme poilu, je crois que nous nageons en plein malentendu.
Willy, j'ai vu Jeffrey. Il m'a dit, passe à la maison, il y aura plein de minous à manger, Willy.
Oh non, ça dérape. On avait tenu les chroniques de manière impeccable et digne depuis le début. Et
il y avait beaucoup de dignité.
On s'est bourré depuis le début.
François Fillon s'est désisté de son pourvoi dans le dossier des emplois fictifs de son épouse Pénélope, rendant donc sa peine définitive.
Ouais, inéligible jusqu'en 2030, donc François Fillon ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle. Comment on va faire? On manque tellement de candidats de droite. Il y a juste Retailleau, Philippe, Isnard, Dupont-Aignan, Attal, Darmanin, Bertrand, Michel-Édouard Leclerc et Olivier Faure. Il n'est pas de droite, oui, mais il n'est pas de gauche non plus. Il est un peu partout. Hein. Non, mais il en manquait un, il pouvait faire une équipe de foot. C'est ouais, trop c'est de candidats putatifs. Alors, putatif, c'est dans le dictionnaire, les enfants.
Ce n'est pas un dérapage.
On a le droit de le dire, c'est pas un dérapage.
C'est digne.
On peut dire Éric Ciotti est un candidat putatif, même s'il n'a pas de cheveux. Au final, François Fillon.
Je suis perdu.
Au final, François Fillon a pris 4 ans de prison avec sourcils. On remet les classiques dans les blagues. C'est un classique. C'est que c'est la vanne que j'ai le plus vendue ces 10 dernières années. J'ai acheté mon appartement avec cette blague.
De nombreuses grandes enseignes invitent les Français à consommer des poireaux à cause d'une surproduction qui risque d'être perdue. Oui, j'en ai acheté 6 hier.
C'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Eh ben, vous travaillez
oui,
pour la
je
France,
travaille pour la France.
C'est bien. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. On manque de profs, on manque de médecins, on manque de places de prison. Mais Niveau poireau, on est bien. On est envahi par les poireaux. C'est les Arabes des potagers. C'est bon dans les couloirs. Il y a des gens sur Terre qui meurent de faim. Pourquoi on leur enverrait pas tous nos poireaux? Mais parce que c'est chiant à cuisiner. Voilà, il y a de la terre, ça met 1000 ans à cuire. Il faut 12 ingrédients. Alors je vois Mathieu. Ça y est, je vois Mathieu qui s'indigne. Mais non, mais c'est un légume super. Hier, j'ai fait un soufflé de poireaux confit, réduction chlorophyllienne et émulsion lactique déstructurée avec des poireaux élevés en permaculture introspective. Les enfants ont adoré.
C'est pas vrai, c'est pas bon.
J'ai tout fait au beurre clarifié en plus. C'est plus qu'un plat, Mathéo, c'est un voyage.
C'est une expérience.
On peut pas aller au McDo.
J'ai passé la nuit à cuisiner cette œuvre. Regardez les nuances de vert. Tu crois que c'est facile de conserver la verticalité chromatique du légume sans altérer la granulosité? Bah ouais, les enfants sont ingrats.
Il y a du vrai en plus.
Ah ouais, je suis sûr.
Un bon vieux poireau vinaigrette.
Courage aux enfants. Courage à Pauline pour Marseille ce soir et les grandes gueules à Marseille ceci tout à l'heure.
On y va justement dans un instant, mais d'abord je voudrais aussi signaler Arnaud que vous, bah, vous passez aussi dans plein d'autres villes de France puisque vous êtes en tournée avec un nouveau spectacle à Reims, à Épinal, à Mâcon, à Lyon, à Toulouse ou à Rennes, spectacle RMC. Mais comme vous le disiez, on part à Marseille.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
À Marseille, où se trouve Olivier Truchot. Salut Olivier, les grandes gueules sont en direct et en public depuis le Palais de la Bourse à Marseille. Première émission spéciale municipale 2026.
Oui, bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules ont débarqué hier soir à Marseille. Elles se préparent à être ici dans ce lieu magnifique. Regardez ce plan. C'est le Palais de la Bourse de Marseille. C'est au cœur de Marseille. On est à quelques mètres du vieux port, de la Canebière. Alors autant dire qu'il y a déjà beaucoup de monde à l'entrée parce que les Marseillais sont invités à nous rejoindre, à venir assister à cette émission. C'est la première escale de notre tournée spéciale municipale. On ira ensuite à Lyon. Nous serons aussi à Nice. Mais là, on est à Marseille avec Abel Boyi, notre éducateur, avec Laura Varton-Martinez, la sophrologue, et puis Antoine Diers, le consultant venu de Dunkerque, vous imaginez, il est venu de Dunkerque, Antoine, pour apprécier la douceur marseillaise, parce que ce matin, c'est vrai, on est assez content, il ne pleut pas. Alors là, c'est déjà un miracle, il ne pleut pas à Marseille, il fait doux, et surtout, on a hâte de lancer cette tournée municipale. Alors, on parlera bien sûr des municipales à Marseille. Ici, il y a un sujet de conversation, est-ce que le RN peut gagner la ville. C'est la vraie question. On en parlera notamment avec le directeur de la rédaction de la Provence, qui est partenaire de cette tournée. Et puis, nous parlerons aussi des sujets d'actualité, bien entendu. On reviendra sur l'enquête concernant la mort de Quentin. Avec cette question, le député Raphaël Arnaud peut-il encore rester à l'Assemblée nationale? Bref, on vous attend 9h midi. Les GG sont à Marseille.
À Marseille, donc. Merci, Olivier. Et puis, je viens de vous rejoindre tout à l'heure, parce que j'en profite pour vous dire que je serai moi aussi à Marseille ce soir, premier des grands débats des municipales. Rendez-vous à 20h55 sur BFM TV et BFM Marseille pour entendre donc les principaux candidats à la mairie de Marseille. Coup d'envoi de ces municipales. Dans un instant, c'est le face-à-face sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clément Gouitz.
Science de l'Elysée ce matin après la mort de Quentin Derenque. Emmanuel Macron se dit préoccupé. Chacun doit faire preuve de calme et de respect. Il faut éviter tout engrenage de violence. La classe politique et l'appel à la démission de Raphaël Arnaud. Trois de ses collaborateurs font partie des 11 interpellés, soupçonnés d'avoir participé au passage à tabac de Quentin Derenque à Lyon la semaine dernière. Jordan Bardella appelle à mettre en place un cordon sanitaire contre LFI. Le député insoumis, lui, peut compter sur le soutien de son camp. Les agents de la Sûreté de la SNCF et de la RATP bientôt équipés de taser. Le décret est paru ce matin au journal officiel. Une mesure expérimentale qui doit durer 3 ans. Objectif, permettre de maîtriser les situations violentes dans les transports. Habib Bey, coach de l'OM. Le club l'a officialisé cette nuit. Objectif, soulever la Coupe de France et monter sur le podium de la Ligue 1. La météo, toujours 4 départements vigilance rouge crue. Le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Il fera cet après-midi de 4 à 14 degrés. 4 à Annecy, 8 à Lens, Strasbourg, 11 à Bordeaux, Bayonne, Lyon. Et la maximale, c'est à Nice ou encore Perpignan avec 14 degrés.
La météo sur RMC avec Penny Lane.
l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres de Clément Guitz. Dans un instant, mon invité, c'est Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il vient évidemment réagir à la mort de Quentin Derenck à Lyon. Il veut rendre inéligibles tous ceux qui auraient été condamnés pour violence. Gérald Darmanin, dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de la Justice. Une question évidemment immédiate sur les arrestations et les liens avec Raphaël Arnaud. Parmi les personnes en garde à vue, il y a deux assistants parlementaires, deux salariés donc de ce député LFI. Est-ce qu'il peut continuer pour vous à siéger à l'Assemblée ?
Il faut attendre la fin des gardes à vue et les décisions des magistrats. Respectons la présomption d'innocence, mais on peut constater qu'il y a des faits extrêmement importants qui s'accumulent, qui montrent qu'il y a un lien évident, chacun le sait, entre Monsieur Arnaud, qui était lui-même déjà condamné pour violence, qui est le fondateur de la Jeune Garde dont on sait que c'est un groupuscule d'ultra-gauche extrêmement violent, et la France Insoumise, qui ne se désolidarise en rien. Mais en rien, depuis plusieurs jours, de la violence et surtout du travail que fait la Jeune Garde pour imposer cette violence physique. Donc normalement, Monsieur Arnaud n'aurait jamais dû être investi par la France Insoumise. Elle se met ainsi, la France Insoumise, en marge de la vie républicaine et démocratique de notre pays. Que Monsieur Arnaud n'ait toujours pas été suspendu ou exclu montre que la France Insoumise récidive en ne gardant pas... une sorte de cordon sanitaire entre les gens qui prônent la violence physique, politique, et puis le débat qui peut être frontal, bien sûr, puisque c'est la politique, mais qui reste dans le débat d'idées. Et puis évidemment, Monsieur Arnaud, personne ne peut le déchoir de son mandat de député, parce que c'est la démocratie. Mais c'est à lui, sans doute, d'en tirer des conclusions, si jamais, évidemment, la justice trouve des indices graves et concordants qui touchent lui-même, ses collaborateurs qu'il a embauchés. Il était le responsable. On a embêté Monsieur Fillon parce qu'il y avait des emplois fictifs. On a embêté Madame Le Pen, peine d'éligibilité parce qu'elle avait manqué à la probité, disait le tribunal en première instance. Tout ça est sans doute normal. Il serait absolument normal qu'on embête Monsieur Arnaud pour lui dire vous pouvez pas rester député à l'Assemblée nationale du fait que vos collaborateurs, vous-même, avez été condamnés, seront condamnés pour
des
violences physiques.
Qu'est-ce que vous appelez embêté?
Vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas, sans doute légitimement, rester dans le débat d'idées, Monsieur Arnaud.
Mais est-ce que vous pensez aussi à une responsabilité qui puisse être démontrée par la justice dans, restons avant de la question morale, la question politique. Mmh. Au fond, vous parlez de ces deux personnes qu'il a lui-même embauchées, qui sont donc à son service. Il y a même une troisième personne parmi les gardés à vue qui a fait un stage à l'Assemblée nationale auprès de Raphaël Arnaud. Il les a embauchés. Ils sont ses salariés. Ils étaient à Lyon, ni dans le Vaucluse, ni à Paris, et un jeudi, c'est-à-dire un jour de semaine, un jour de travail, j'imagine. Est-ce qu'il faut que la justice aille jusqu'à se poser la question de savoir si Raphaël Arnaud était au courant du fait qu'ils allaient à Lyon, voire même leur avait peut-être demandé d'aller à Lyon? Est-ce que pour vous, la responsabilité, elle va jusque-là?
Moi, je vais pas donner de pression sur le procureur de la République ou les magistrats ou les services enquêteurs. Je suis ministre de la Justice. Mais vos questions sont absolument légitimes et tout le monde se les pose. Et la justice fera son travail librement. Il n'y a pas de protection pour la France insoumise dans la justice française. Tout le monde doit pouvoir répondre à droite, à gauche, des embauches de ses collaborateurs et puis bien évidemment de ce qu'ils font. Surtout lorsqu'on est soi-même le fondateur de la Jeune Garde, c'est-à-dire le fondateur d'un groupe d'ultra-gauche, ultra-violent, qui a tué dans les rues de Lyon. Moi, je suis effaré que la France insoumise et que M. Mélenchon n'ait pas tout de suite dit, parce que ça peut arriver, des brebis galeuses, comme on dit, personne ne peut contrôler l'intégralité des personnes qui sont dans un parti politique, c'est entendu, mais que M. Mélenchon n'ait pas clairement dit, voilà, c'est inacceptable, absolument inacceptable, nous donnons notre compassion à la famille de Quentin et nous faisons le ménage, comme vient de dire le Premier ministre. Au contraire, il a attaqué vos collègues journalistes de l'AFP quelques heures après la révélation de ces faits. Il a attaqué ad hominem les journalistes de l'AFP qui avaient fait une dépêche. Il a attaqué Monsieur Aziza, mettant quasiment une fatwa numérique sur lui. Il continue à dire,
journaliste à Radio J.
Il continue à insulter Monsieur Glucksmann, qui a été extrêmement courageux, Monsieur Hollande, qui a été extrêmement courageux pour dire jamais plus la gauche ne doit s'allier avec la France insoumise. Il justifie cela. Il protège Madame Hassan, dont on sait tous qu'elle tient Rima Hassan, qui tient des propos antisémites, qui nie l'État d'Israël, qui veut exterminer ceux qui restent de la dignité des Juifs et qui montre vraiment une violence extrêmement forte dans le débat public. Et comment peut-on imaginer un seul instant, et ça c'est très important que M. Hollande sur votre plateau, M. Glucksmann l'ait dit,
hier matin,
que demain la France insoumise puisse encore s'allier, demain les municipales, avec les partis de gauche. Est-ce que à Nantes, la maire de Nantes, socialiste, va s'allier avec la France insoumise? Il faut qu'ils le disent. Est-ce que à Au Havre, ils vont s'allier, la gauche unie, la France insoumise et les communistes et socialistes contre Édouard Philippe? Est-ce qu'à Tourcoing, la France insoumise va s'allier avec la candidate de gauche pour battre Dorian Bécu et Gérald Darmanin? On peut se rebattre dans les urnes. Mais alors, il faut avoir un discours de dire que la gauche est capable de s'allier avec les pires, ceux qui prônent la violence physique. Ou alors la gauche républicaine, laïque et démocratique, celle qu'on aime, celle qui a donné des grandes heures à notre pays, fait enfin le cordon sanitaire avec la France insoumise.
Là, vous vous adressez à la gauche, parce qu'effectivement, des voix comme celle de François Hollande ou celle de Raphaël Glucksmann se sont élevées en disant « il n'y a plus d'alliance possible ». Mais vous vous adressez au reste de la gauche pendant ces municipales, en leur demandant si ce cordon sanitaire doit être mis en place.
Oui, parce qu'il n'y a pas que les socialistes. Il y a les Verts. À Lyon, il y a un adjoint aux Verts, celui en charge de la sécurité. L'adjoint écologiste en charge de la sécurité à Lyon est au retrait avec la Jeune Garde. Il le dit sur les réseaux sociaux. Il n'a pas eu un mot aujourd'hui pour dire « je me suis trompé, je n'avais pas vu que la Jeune Garde était un groupe d'ultra-gauche fasciste ». Il est toujours adjoint au maire, du maire écologiste de Lyon qui se présente aux élections. Il y a des tractages, des bannières en commun, des tracts en commun avec des candidats communistes, avec des candidats écologistes. Il faut absolument que ces partis disent aujourd'hui, dans les heures qui viennent, on ne peut pas travailler avec des groupuscules.
Vous demandez par exemple au maire de Lyon de se séparer de Mohamed Chihi, qui est cet adjoint à la sécurité dont vous parlez?
Ben, ça vous paraît pas évident? Ou alors qu'au moins cet adjoint au maire puisse dire maxima mea culpa, je me suis trompé, la Jeune Garde est en effet un groupe d'ultra-gauche qui est ultra-violent et qui tue. Dans la propre ville où est mort Quentin, l'adjoint à la sécurité écologie des Verts est heureux de travailler avec la Jeune Garde. C'est cette propre phrase en démocratie.
Vous dites il n'y a pas de mea culpa. En effet, il n'y a aucun mea culpa de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui redit ses liens d'amitié, même de tendresse, dit-il, vis-à-vis de la Jeune Garde. Et il dit du Premier ministre qu'il a visiblement pété un câble, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il demande à LFI de faire le ménage dans ses rangs.
Mais la France insoumise, malheureusement, c'est la théorie du chaos. Voilà. On pensait que c'était une théorie du chaos verbale. Il fallait toujours se méfier, puisque le verbe, évidemment, peut tuer. Mais on voit bien que c'est désormais, il y a un continuum. Comme disait Gilles Kepel à propos de l'islamisme, il y a un djihadisme d'atmosphère, il y a une violence politique d'atmosphère avec la France insoumise, qui consiste à vouloir le chaos, et pourquoi pas le chaos physique. Et je pense qu'ils souhaitent la confrontation avec le Rassemblement National, la France insoumise. Tout le monde sait que si au second tour de la présidentielle, c'est M. Mélenchon face à M. Bardella, c'est M. Bardella qui va gagner, mais M. Mélenchon sera content, ce sera le chaos politique, le chaos physique et le chaos économique. Il faut absolument empêcher ça, et oui, vous avez raison, la France insoumise montre son vrai visage. Elle a peut-être encore dans les prochaines minutes, prochaines heures, la possibilité de montrer qu'elle est un parti comme les autres, mais on sait bien, on sent bien, les Français le sentent bien, je crois. En tout cas, les Juifs l'ont bien compris, par exemple, que ce n'était pas un parti comme les autres.
Vous le disiez, il n'y a pas une mea culpa d'un côté. Il faut qu'ils sont en marge, dites-vous, aujourd'hui. Sur la question aussi de l'action éventuelle de Raphaël Arnaud, est-ce qu'il y a, d'après vous, à partir du moment où il avait déjà été lui-même condamné pour des faits de violence, personnellement, Raphaël Arnaud, que le groupe, la Jeune Garde, qu'il a cofondé, a été à nouveau condamné dans l'entre-deux-tours des législatives. Est-ce que pour vous, il n'aurait pas fallu qu'il puisse être investi?
Alors oui, et je pense qu'il faut une peine d'inéligibilité qui n'existe pas aujourd'hui. Le président de la République a évoqué une peine d'inéligibilité pour les gens qui étaient condamnés pour antisémitisme. On va profiter de ce texte de loi proposé par le président. Moi, je proposerai que des gens condamnés pour violences physiques qui auront lien avec les violences en réunion, c'est-à-dire les violences des ligues, pour rappeler les années 30, eh bien qu'on puisse pouvoir, que le juge, en toute indépendance, puisse prononcer une peine d'inéligibilité. Que
Madame Le Pen présenter cette loi.
Exactement, mais que Madame Le Pen puisse ne pas se représenter aux élections parce que le juge a considéré en toute indépendance qu'elle avait manqué à la probité, c'est un fait, c'est notre droit, il ne faut pas toucher à cette disposition. Quand quelqu'un manque en effet à la probité, il ne peut pas se présenter devant les électeurs. Mais quand quelqu'un fait de la violence physique et a organisé des groupuscules qui demain peuvent tuer, évidemment, ils ne peuvent pas se présenter aux élections et siéger à l'Assemblée nationale. Donc je pense et j'espère que le Parlement me suivra dans cette disposition.
Un article 40 aurait-il pu être déclenché à un moment ou à un autre face à Raphaël Arnaud ou face à l'agissement de ses assistants parlementaires?
Alors sans doute, alors ça peut pas être le garde des Sceaux parce que je suis le seul en France à pas pouvoir en faire parce que je peux pas donner de pression sur les magistrats, mais il est évident qu'il y a un certain nombre de procédures judiciaires qui doivent aller jusqu'au bout, qui touchent la France insoumise. Pour l'instant, elles ne vont pas jusqu'au bout, donc je réunirai les procureurs généraux pour rappeler, pas que pour la France insoumise, pour tout le monde, enfin quand même, que lorsqu'on a des articles 40 faits par des professeurs d'université, je pense à ce prof de Lyon qui a été viré de son propre amphithéâtre par des groupes d'ultra-gauche, ou parce qu'il y a des réunions antisémites qui s'organisent, ou des propos antisémites extrêmement graves qui appellent à la haine, par exemple, on puisse évidemment aller jusqu'au bout de la procédure judiciaire. Donc les procureurs généraux seront réunis dans 15 jours et j'aurai l'occasion de leur parler de ce sujet.
Vous avez appelé la gauche à être très claire sur le fait qu'elle ne fasse plus alliance avec la France insoumise. Est-ce que vous appelez aussi votre propre camp à renoncer au barrage républicain, c'est-à-dire à avoir dit, comme Gabriel Attal l'avait dit au moment des dernières législatives, eh bien qu'il préférait voter même pour un LFI, si ça permettait de battre le RN?
Oui, j'étais en désaccord avec ce qu'a dit Gabriel Attal ce jour-là. J'étais un peu minoritaire à l'époque. Je ne mettrai jamais le bulletin LFI dans l'urne. Mais je pense que Gabriel Attal, à l'époque, avait été aussi courageux en allant défier M. Arnaud à Avignon pour soutenir notre candidate.
Il y avait été sur le terrain.
Qui a été battu, voilà. Donc je ne fais pas ce procès à Gabriel Attal. Mais voilà, disons-le, pour l'avenir, que plus personne ne nous fasse le coup de votons LFI pour faire barrage. Ah, voilà. Je pense malheureusement que les deux extrêmes se rejoignent, mais que LFI aujourd'hui démontre, au moins par silence, mais vraiment je suis gentil en disant ça, sa complicité avec cette violence politique qui peut demain tuer encore dans les rues de Paris, de Lyon et d'ailleurs.
Vous dites encore demain, il y a notamment samedi ce rassemblement à Lyon en hommage à Quentin, mais qui suscite les plus grandes craintes. Est-ce que vous êtes globalement inquiet?
Alors je suis inquiet de la violence politique qui touche notre pays. D'ailleurs, elle n'est pas que française, elle est dans une Europe qui se cherche pour plein de raisons, perte de notre démographie, difficultés politiques, les réseaux sociaux. Mais oui, on peut être inquiet. Il y a un excellent ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il y a une très bonne préfète à Lyon, je la connais très bien. Ils prendront les
dispositions. Ils sont excellents, dites-vous, mais est-ce qu'il ne manquait pas de policiers lorsqu'il y a eu la venue de Rima Hassan, ouais, sachant que à plusieurs reprises la question du trouble à l'ordre public lors de ses venues dans l'université avait été invoquée?
N'inversons pas la charge de la preuve. C'est pas à cause des policiers, c'est pas à cause de la préfète, c'est à cause de nervis d'ultra gauche qui ont tué Quentin. Voilà. Donc on peut dire que la police tue à tout moment ou qu'elle était trop absente. Elle fait son travail. La police, elle est très courageuse parce qu'elle protège la France insoumise et ses dirigeants et ses meetings, alors que la France insoumise insulte la police tous les jours. On peut quand même dire que la police républicaine française est extrêmement courageuse. On peut se poser aussi la question de la responsabilité des établissements universitaires. Moi, personnellement, je suis assez peu invité à Sciences Po Lyon, à Sciences Po Aix. J'ai vu qu'à Sciences Po Lyon, Monsieur Coquerel puis Madame Hassan ont été invités en quelques semaines d'intervalle. C'est pas une grande variété idéologique auprès des universités et auprès des étudiants. Donc il y a aussi une question à se poser de la responsabilité des universités. Il y en a qui font ça extrêmement bien et d'autres sans doute qui ont un petit prisme idéologique, ça peut être possible. Voilà, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mort de Quentin, partons du principe que personne n'avait vu que la France insoumise pouvait avoir un discours violent. Nous serions magnanimes en le disant. À partir d'aujourd'hui, c'est un point de bascule, vous avez raison, on sait que la France insoumise tient un discours violent.
Gérald Darmanin, des permanences LFI ont été taguées, une alerte à la bombe a eu lieu hier sur le siège de LFI, et Éric Coquerel, vous le citiez à l'instant, dit « j'ai peur que ça se termine très mal pour l'un de nous ». Est-ce que ça aussi, ça suscite votre inquiétude?
Oui, bien sûr, et moi je condamne les agressions des permanences politiques de la France insoumise, comme les agressions qui touchent tous les militants, tous les candidats, quels qu'ils soient. Mourir pour des idées, mais de mort lente, disait Brassens. Je dis à Monsieur Bompard, je dis à Monsieur Coquerel, je dis à Madame Panot, c'est à vous de dénoncer ces violences. Évidemment, la République, comme elle l'a toujours été, sera à vos côtés pour vous protéger physiquement, parce qu'on ne tue pas en démocratie. Et quand il y a des propos relativisant la mort de Quentin, même si c'est un militant d'extrême droite, qu'importe, c'est un homme, c'est un enfant, une famille a perdu un enfant. Donc il faut qu'aujourd'hui la France insoumise revienne du côté de l'homme et de l'humanisme.
Une question encore sur l'efficacité ou non
de dissoudre des groupuscules. Mmh. Vous le disiez, la Jeune Garde, officiellement, a été dissoute. Sauf que cet été encore, elle tenait un stand avec pignon sur rue, j'allais dire, sur l'université d'été de la France Insoumise. Sauf que, semble-t-il, les membres ou ex-membres de la Jeune Garde continuaient à se réunir, à prendre, semble-t-il, un train pour aller à Lyon, pour être ensemble là-bas. En fait, quand on dit on dissout, est-ce que finalement ça ne sert à rien ?
Non, ça sert. Alors le problème, c'est que pour la Jeune Garde, il y a un appel. Monsieur Retailleau a demandé la dissolution de la Jeune Garde.
Oui, mais cet appel n'est pas suspensif. Officiellement, c'est dissous.
Bon, ce qui fait que quand les groupes se réunissent, regroupement de ligues dissoutes, comme on dit dans le langage populaire, et qu'on voit que les gens sont ensemble, quand la dissolution est définitive, ça permet une qualification pénale. Avant même qu'ils aient fait quelque chose, le fait qu'ils soient ensemble permet aux policiers de les interpeller et de les faire condamner. J'ai dissous Génération Identitaire. Ils se sont reconstitués, on a pu les interpeller et les faire condamner. J'ai dissous le GAL, qui est un mouvement d'ultra-gauche qui était déjà à Lyon. Ils se sont reconstitués, on a pu les faire condamner devant la justice. C'est aussi le cas de beaucoup de groupements et de groupuscules islamistes. Ce n'est pas la solution à tout, la dissolution, mais il est évident que c'est un premier pas qui permet d'éviter qu'ils aient une association, de l'argent, qui puisse ester en justice. La Jeune Garde, par exemple, elle fait partie de l'ensemble des tracts, des communications, lorsque j'ai voulu dissoudre le soulèvement de la Terre, par exemple, ou attaque en justice, puisque c'est une association, quand elle existe, peut attaquer quelqu'un, un homme politique, un journaliste, pour pouvoir
c'est
lui mettre la pression.
C'est aussi pour ça, dans ce
exactement.
Cas, qu'on engage cette... Donc, cette...
Ce n'est pas la panacée, mais c'est une arme très importante.
Deux questions encore dans l'actualité. L'une sur le statut de victime et l'autre sur l'homme qui a attaqué un soldat sous l'Arc de Triomphe. Le statut de victime, vous dites désormais que vous voulez aussi être le ministre des victimes. Ça va se traduire comment ?
Alors d'abord qu'on puisse les accompagner dès qu'elles sont devant la justice. Parfois, l'agresseur supposé croise la victime supposée dans l'ascenseur alors qu'il y a eu une confrontation chez le juge d'instruction. Parfois, on n'accompagne même pas une victime quand elle attend depuis 6 ou 7 ans le procès parce qu'il y a diverses actions qui sont faites par la partie adverse, par exemple. On ne lui donne même pas une information, même pas un mail, même pas une communication. Parfois, lorsque, par exemple, j'ai un cas, j'ai reçu cette victime mardi. La semaine dernière, exactement mardi, elle m'a dit, ben voilà, mon agresseur est mort. Je suis déçu par l'avocat, après 6 ans d'attente, hein, par l'avocat, par mon confrère qui a reçu un appel de sa consoeur. Et personne, aucun greffier, aucun magistrat, aucun agent du ministère de la Justice m'a prévenu qu'il n'y avait plus de procès, puisqu'on ne condamne pas les morts et qu'on poursuit pas les morts. Donc il y a un manque de respect, alors pas toujours, pas tout le temps, parce que dans les juridictions, il y a des gens qui font des choses formidables, il y a des associations de victimes qui font des choses formidables, mais de manière générale, les victimes, les usagers de la justice ne sont pas très bien reçus. Et donc il faut que nous fassions attention à ça, que nous ayons de l'empathie et du cœur auprès des victimes.
Gérald Darmanin, vendredi soir, un homme a attaqué un soldat sous l'Arc de Triomphe au moment du ravivage de la flamme du soldat inconnu. Cet homme avait déjà été condamné pour des faits de terrorisme. Il avait purgé sa peine. Il était sorti de prison. Et il suivait d'ailleurs, semble-t-il, un programme de déradicalisation. Il semble que ça n'ait pas tout à fait marché. On sait qu'il y a 35 personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui vont sortir de prison d'ici 2027. Est-ce que chacun pourrait à nouveau passer à l'acte comme ça a été le cas vendredi soir?
Ah oui, bien sûr, c'est les sortants de prison radicalisés ou condamnés pour terrorisme. Il y en a à peu près 700 dans les prisons françaises, hein, tout confondu, des gens condamnés et des gens qui se sont radicalisés, soit en prison, soit avant de rentrer en prison. Oui, ils sont très dangereux quand ils sortent de leur prison. C'est pour ça que pour ceux qui sont étrangers, je m'évertue à les expulser du territoire national. Et pour ceux qui sont français, avec le ministère de l'Intérieur, puisque quand ils sortent de prison, c'est le ministère de l'Intérieur qui les surveille, qui les accompagne, qui les suit, qui les interpelle quand il y a un doute. Nous demandons des moyens supplémentaires, notamment d'accès au réseau et au réseau téléphonique. Il faut que les Français sachent que nous n'avons pas accès intégralement au réseau crypté, à WhatsApp, à Signal, à Telegram. Hier, les écoutes téléphoniques classiques nous permettaient d'interpeller les gens avant qu'ils passent à l'acte. Et là, pour des gens extrêmement dangereux, nous demandons, avec Laurent Nunez, hier avec Bruno Retailleau au Parlement, et j'espère qu'on l'aura bientôt, des moyens pour pouvoir suivre ces personnes.
Ça vous manque pour l'instant. Merci Gérald Darmanin d'avoir répondu à mes questions ce matin. Ministre de la Justice, la politique, je vous signale aussi que ça sera ce soir à 20h50 le premier débat, le coup d'envoi des municipales, ce sera à Marseille et à suivre sur BFM TV et BFM Marseille. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Gérald Darmanin était mon invité. Nadine Morano, vous vouliez réagir à cette interview ?
Écoutez, Madame Malherbe, hein? Oui,
pardon.
Oh, ça va, j'ai pas la... Deux Malherbes, ça va, oh là là, c'est Bourges. Écoutez, dans la période... ça va être long. Dans la période qu'on vit, il faut une voix raisonnable et apaisée. Hein. Mais bon, comme on n'en trouve pas, il y a que des gens qui gueulent en ce moment. Du coup, je me suis dit, ben Nadine, vas-y, parce que toi aussi, tu sais gueuler.
Ah oui.
En plus, la Malherbe, elle s'est gérée. Elle s'est cognée la Marion Maréchal il y a deux jours.
11 personnes ont été interpellées dans l'affaire Quentin de Ranc. Deux sont des collaborateurs parlementaires d'LFI.
Ben évidemment que c'était les insoumis. Il n'y a pas besoin de s'appeler Alfred Epstein, hein, pour comprendre ça.
Non, c'est Alfred Einstein, Madame Morano. Quentin assurait la sécurité des membres de Némésis. Vous connaissez ce mouvement féministe
spécial extrême droite? Non, mais arrêtez. Ne commencez pas à utiliser des mots insultants.
Quand je dis extrême droite?
Non, quand vous dites féministe. Les féministes, on les connaît. C'est des étudiantes en surpoids qui ont des cheveux courts, une frange, hein, mais si, une frange colorée rose, hein, avec un t-shirt sans manches marqué « J'aime mon vagin », hein, et qui ont les mamelles qui pendent parce qu'elles ont 2 kilos de piercing à chaque téton. On les connaît. Oui, oui, ça choque tout le monde. Hein, mais il faut dire les choses. Du coup, c'est nanana. Eh ben, trouve pas de mec. Ben voilà, mais oui, mais c'est la vie. C'est comme ça, alors que nous, à droite, hein, des nanas comme ça, il n'y en a pas. Némésis, c'est des vraies femmes qui plaisent aux hommes et qui luttent pour les droits des autres femmes. Mmh. Le droit de rester tranquille à la maison, de faire des gosses et des tartes aux pommes.
Non.
Voilà. Mais oui, évidemment que les insoumis, ça les rend zinzin. Hein, pour eux, les inspirations d'une femme, c'est avoir des poils aux pattes, parler fort et devenir bâcher le panneau.
Oh.
Ben oui, mais faut dire les choses.
Oh, merci, Madame Morano. Éric Ciotti voulait également réagir. Comment endiguer ces phénomènes de violence, selon vous, monsieur Ciotti?
Écoutez, Madame Malherbe, je suis heureux d'avoir retrouvé déjà ma voix.
Ah oui.
Et ma stature. La solution, je suis assez d'accord avec la théorie de Monsieur Darmanin. La solution, c'est la prison de haute sécurité.
Vous voulez enfermer les manifestants?
Non, mais non, allons, pas du tout. Non. Je propose simplement que les insoumis se réunissent librement dans les cours, dans la cour d'un endroit plus sûr pour eux, la cour d'une prison de haute sécurité.
Ah, c'est pour leur bien.
Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est formidable, une prison de haute sécurité. Pourquoi ne pas y organiser d'ailleurs les matchs à haut risque comme les classico MPSG par exemple?
Ah oui.
Beaucoup aussi de nos concitoyens, nous le savons, aspirent à des vacances bien méritées dans des endroits sécurs.
Mmh.
Hein? Eh bien, pourquoi ne pas ouvrir nos prisons de haute sécurité afin qu'ils puissent venir passer un week-end, se ressourcer?
Oui.
Vous l'avez compris, je pense comme Gérald Darmanin que la prison c'est formidable. D'ailleurs, avec le code promo Darmanin 20,
oui,
tous les vos auditeurs qui réserveront dans le quart d'heure bénéficieront de moins 20% dans l'hébergement dans les plus belles suites carcérales de nos prisons.
Ah, oui.
Profitez-en, les insoumis, bien sûr aussi Christian Estrosi.
Merci Eric Ciotti. Allez, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité. Bonjour Stéphane.
Oh oui, Apolline, oui, bonjour. Bonjour ma reine. Dites donc, vous avez vu toute cette flotte, mais comment je vais faire moi pour mes émissions? Hein, je vais tourner le plus beau village inondé de France, c'est ça le titre de mon émission? Non, je vous préviens, ne comptez pas sur moi pour présenter en scaphandre, ça me bousillait tout mon brushing. Allez, c'est parti pour les titres. Alerte à la bombe, hier au siège de France Insoumise où après avoir passé les locaux au peigne fin, les policiers n'ont trouvé qu'une seule chose pouvant représenter une menace pour l'intégrité physique des gens, Raphaël Arnaud. Et puis justice, la procureure de Paris, Laure Bécois, en charge de l'enquête sur le Louvre, ouvre à présent une enquête sur le dossier Epstein. Elle sera toujours bredouille au niveau des bijoux du Louvre, mais à coup sûr, pas sur les bijoux de famille.
Oh non,
je suis d'accord, c'est facile. Oui, et puis affaire Fillon, l'ancien Premier ministre a finalement renoncé à son pourvoi en cassation dans l'affaire, l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Il s'en explique ce matin, il faut dormir mon cher.
Oui.
Il s'en explique ce matin sur notre antenne.
Oui, bonjour monsieur, écoutez, avant toute chose, j'aime ma femme. Écoutez, non, je n'ai pas choisi de renoncer à me pourvoir en cassation. C'est juste cette feignasse de Pénélope qui n'a pas envoyé à temps mon dossier de pourvoi au tribunal. Comme d'habitude, elle n'a rien foutu. Bon, mais ça ne l'a pas empêché de me réclamer son salaire. Donc, c'est de ma faute, je l'ai mal habitué. J'aime ma femme, mais enfin, elle commence à me les briser sévère.
Vous avez donc pris quand même 4 ans de prison avec sursis, monsieur Fillon?
Oui, du sursis, la poisse. j'aurais préféré dû faire au moins 3-4 semaines que je puisse aller en taule écrire un bouquin pour payer les 300 000 boules qu'on me réclame.
Merci monsieur Fillon. Une petite nouvelle people pour finir. Bernard Arnault a acheté le plus grand méga yacht du monde. Il mesure 143 mètres. François Ruffin est avec nous, bonjour.
Je dis, ça suffit. Le yacht de monsieur Bernard Arnault, multimilliardaire, va brûler, il faut le savoir, des millions de litres de gasoil par jour, pendant que les Français, eux, galèrent pour faire juste le plein de leur vieille Renault 5 ou 4L. Avec quoi? Avec un pauvre mélange d'huile de friture recyclée, de villageoise et de reste de gel hydroalcoolique périmé, madame de Malherbe. J'espère que ce yacht indécent et ostentatoire aura le même destin. Oui, que le Titanic. Sauf qu'avec le bilan carbone de monsieur Bernard Arnault, il ne restera bientôt plus d'iceberg pour faire couler ce bateau, pour faire le boulot. Alors je le dis, ça me suffit.
Merci monsieur Ruffin. Merci Nicolas. Face à Canteloup, on vous retrouve dès demain 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant les GG. Et les GG, c'est à Marseille, Olivier.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules ont débarqué hier soir à Marseille avec Abel Boyi, notre éducateur, avec Laura Bartour-Martinez, la sophrologue, et puis Antoine Diers, le consultant venu de Dunkerque. Vous imaginez, ici, il y a un sujet de conversation. Est-ce que le RN peut gagner la ville? C'est la vraie question. On en parlera notamment avec le directeur de la rédaction de La Provence, qui est partenaire de cette tournée. Et puis, nous parlerons aussi des sujets d'actualité. Bien entendu, on reviendra sur l'enquête concernant la mort de Quentin. Et... avec cette question, le député Raphaël Arnault peut-il encore rester à l'Assemblée nationale? Bref, on vous attend, 9h midi. Les GG sont à Marseille.